Madame, monsieur, bienvenue sur le site du Pays Carcassonnais. Vous vous apprêtez à écouter un débat dans le cadre des Barres des Sciences sur le sujet cancer, de nouvelles approches pour le traitement. Un enregistrement qui a eu lieu aux Barres des Sciences, comme je vous le disais, au bar des Bistrots d'Augustin. Putain, c'est pas possible. Madame, monsieur, bienvenue sur le site du Pays Carcassonnais. Vous vous apprêtez à écouter un débat dans le cadre des Barres des Sciences sur un sujet, le cancer, de nouvelles approches pour le traitement. Ce débat a eu lieu le jeudi 22 mars au Bistrot d'Augustin. Un débat où s'est ouvert avec deux chercheurs, Gérard Montaroux, Régis Ferrand, mais aussi les docteurs Marilyn Martinez et Philippe Paytour. Ils se présentent tout de suite. Je vous laisse apprécier ce débat.
Effectivement, je m'appelle Gérard Montaroux, je suis directeur de recherche au CNRS. Je suis affecté au laboratoire de physique corpusculaire de Clermont. Donc, je suis un physicien. Et donc, je voudrais témoigner ici dans le cadre de ces nouvelles approches pour le traitement contre le cancer, de toute une gamme, disons, de développement et de recherche qui implique des physiciens, puisque vous savez que beaucoup, beaucoup de, disons, de méthodes et de traitements ont trouvé une base ou ont trouvé une initiative dans la physique. Je n'en témoignerai que pour, par exemple, Pierre-Marie Curie, qui, dans le cadre de leurs travaux, ont découvert le radium, qui a ensuite été à l'initiative de tout ce qui est traitement par ion ionisant. Je suis physicien instrumentaliste, c'est-à-dire que je travaille sur des développements d'appareillages et de méthodes, notamment dans l'utilisation des rayonnements ionisants, qui sont un des aspects du traitement du cancer, qui a une palette maintenant très étendue de traitements. Et donc, dans le cadre de mon métier, après une maturation, puisque je viens donc de la physique fondamentale, je me suis reconverti avec bonheur et avec délectation dans l'utilisation de ces techniques instrumentales de physique pour le traitement du cancer.
Merci. Monsieur Ferrand, Régis Ferrand.
Oui,
bonsoir, bienvenue.
Bonsoir. Régis Ferrand, après avoir fait des études d'ingénieur, j'ai ensuite fait une spécialisation en physique médicale, qui est une branche un peu de la physique qui s'oriente justement pour les applications médicales, qui vient un peu historiquement de Marie Curie, qu'on cite souvent comme étant l'élément fondateur, c'est-à-dire le translationnel entre la physique fondamentale et les applications cliniques. Et j'ai travaillé pendant pas mal d'années pour le développement de la protonthérapie, qui était une technique de radiothérapie, donc de traitement du cancer, en utilisant des faisceaux de protons. C'était une technique un peu de pointe pour les traitements de l'œil et du cerveau. C'est toujours une technique de pointe qui se développe de plus en plus. Et puis j'ai pris il y a quelques temps la direction du département de physique médicale au centre anti-cancer de Toulouse, où justement on aborde un peu toutes les techniques, ou tout ce qui est le translationnel de la physique entre la recherche fondamentale et le traitement, soit sur les techniques d'imagerie, soit sur les techniques de traitement, y compris avec d'autres applications telles que la robotique, par exemple, pour aider à la chirurgie, les nanotechnologies pour les traitements vectorisés. Voilà, c'est un grand domaine tout à fait passionnant.
Et on vous remercie d'avoir répondu présent à cette invitation. Et puis, il y a quelqu'un que les Carcassonnais connaissent bien, c'est Dr Philippe Paytour. Vous nous dites un petit peu pourquoi vous êtes là, et puis peut-être aussi nous parler d'ADOC 11 en quelques lignes.
Voilà, je suis venu à la demande d'Alain Falvard, parce que comme il a expliqué tout à l'heure, au niveau national, il y a un mois qui s'appelle Mars Bleu, hein, qui est le mois du dépistage organisé du cancer colorectal. Et donc moi je suis le médecin directeur de cette d'ADOC 11, mais nous invitons les personnes entre 50 et 74 ans à pratiquer le test hémoculte pour la recherche de polypes, intervenir à des stades précoces, hein, et nous intervenons aussi, nous invitons les femmes de 50 à 74 ans à réaliser une mammographie tous les 2 ans.
On aura l'occasion d'en reparler durant cette émission, je l'espère. Et puis...
puis quelqu'un que l'on ne présente pas. Ben oui, parce que vous êtes premier adjoint à la mairie de Carcassonne. Marine Martinette, vous êtes aussi docteur. Dites-nous un petit peu plus.
Bien, mais moi je suis à la limite le dernier maillon de la chaîne qui part de la recherche fondamentale, de la translation de la recherche fondamentale, je dirais, après à l'action et au développement des techniques. Je viens après le dépistage et la prévention. Et c'est vrai qu'après, finalement, ben, c'est moi qui utilise les dernières découvertes. Et donc c'est un élément qui me passionne, qui m'intéresse. Et peut-être après moi, on pourrait peut-être dire qu'il y a peut-être besoin d'autres personnes qui seraient la prise en charge psychologique, la prise en charge sociale et l'accompagnement du patient et des familles qui sont au contact du cancer.
Alors je disais en introduction de ce débat que nous arrivons à aller sur la Lune et parfois même plus loin. Et quand il y a un de nos proches qui est atteint du cancer et qui n'est plus de ce monde, on se dit comment est-ce possible, comment est-ce qu'on n'arrive pas à trouver les choses. Alors aujourd'hui, est-ce que réellement la médecine a avancé dans ce domaine-là? Très rapidement pour nous dire sur quel point, et puis peut-être que les personnes qui sont ici auront peut-être des choses aussi à nous dire. Alors, est-ce que réellement on a avancé, on va sur la Lune, mais sur Terre, est-ce qu'on a avancé concernant le dépistage de ce cancer? Est-ce qu'on peut déjà se dire, ben, là, ça se soigne? Alors, qui peut... C'est une question peut-être difficile, mais je ne sais pas. Docteur Martinez?
Non, mais peut-être qu'avant d'aller sur la Lune, effectivement, il faut s'occuper du quotidien. Et je crois que, effectivement, les deux intervenants que nous avons ce soir, qui font de la recherche, qui réfléchissent sur l'utilisation des radiations, mais aussi sur l'imagerie, je crois qu'ils peuvent peut-être nous parler de leurs travaux, de leur recherche, et peut-être ça pourra faire avancer le débat.
Voilà, alors où est-ce que nous en sommes à ce niveau-là?
Alors, je voudrais faire d'abord une première observation. C'est vrai qu'on peut aller sur la Lune, mais si par exemple on peut aller sur Mars, eh ben, c'est vrai que ça ne serait pas sans danger en termes de, disons, de risque de développer un cancer. C'est vrai que ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que la palette des outils pour le traitement du cancer, là je parle du traitement du cancer, c'est considérablement renforcé. Ce qu'il faut bien comprendre, tel que moi je le comprends, c'est que malheureusement il y a quand même des limites, c'est-à-dire que le Graal qui consisterait à traiter toutes les maladies humaines, ben, je ne pense pas que ce soit pour demain, mais quand même, on s'aperçoit que la palette de ces outils, bon, on a parlé de l'utilisation des rayonnements ionisants, bon, bien entendu, on a fait des considérables progrès depuis Curie, voire le docteur Despaigne, qui a été, je crois, le premier à utiliser les rayonnements pour un traitement du cancer de l'estomac, si je me trompe, hein, Régis. Maintenant, effectivement, on arrive à moduler et, disons, à utiliser les rayonnements à bon escient, en essayant de minimiser les risques sur les tissus sains, pour ne pas induire des cancers induits, et à cibler de plus en plus la tumeur. C'est ça le progrès pour les rayonnements ionisants, c'est-à-dire d'essayer d'utiliser soit des radiations conventionnelles dont vous en êtes entendu parler, c'est-à-dire des X ou des gamma, et on a utilisé le mot tout à l'heure de protonthérapie ou d'utilisation de nouvelles particules, et c'est là qu'interviennent les physiciens, c'est d'utiliser ces particules pour irradier les cellules, les tumeurs, en essayant de concentrer la dose, c'est-à-dire ce qui va tuer les tumeurs cancéreuses, sans toucher, disons, d'autres organes à proximité. Donc c'est l'utilisation de protons, qui est l'alter ego de l'électron, voire même de ce qu'on appelle des ions, c'est-à-dire des noyaux d'atomes, une fois qu'on a débarrassé ces atomes de leurs électrons, ce qu'on appelle un ion, et en particulier l'ion carbone. Donc il y a actuellement une activité qui se fait beaucoup au Japon, beaucoup en Allemagne, et on essaye de promouvoir ça en France, qui est ce qu'on appelle la hadronthérapie, qui a l'intérêt de vraiment cibler la tumeur sans trop affecter les tissus sains. Donc il y a des projets de centres en France, il y a deux centres de protonthérapie qui fonctionnent, un à Orsay, où était mon collègue et mon voisin, et un autre à Nice, à la Cassane, sur des traitements bien particuliers. À Nice, c'est pour le traitement des tumeurs oculaires, et c'est le CPO. Orsay, c'est particulièrement spécialisé dans le traitement des tumeurs des enfants. Donc ça, c'est. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que ce traitement par ionisation n'est qu'une palette, c'est-à-dire c'est qu'un outil. Il y a à côté de ça tout un tas d'autres moyens, la chimiothérapie, la chirurgie, l'utilisation de radiothérapie vectorisée, c'est-à-dire le fait de pouvoir aller cibler des cellules cancéreuses en adjoignant une petite source radioactive, je simplifie, mais une petite source radioactive à une molécule qui va aller se fixer sur la tumeur, hein, voire même tout ce qui est traitement par cellules souches ou par, comment on appelle ça, l'hormonothérapie. Donc je voudrais bien, enfin, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas un outil miracle pour le traitement du cancer, mais il y a une diversité d'outils. Et je pense que ma compréhension, c'est qu'on doit adapter le traitement au patient. C'est ça qui va faire la différence, je pense, dans l'avenir. C'est le traitement va être très adapté parce que chaque patient a sa propre particularité. C'est bien compréhensible. Le deuxième point où je voudrais aussi terminer, c'est on parlait du traitement, le dépistage, voire le diagnostic. On est arrivé maintenant, on arrive à avoir, à utiliser donc des molécules pour aller visualiser des tumeurs dans leur stade précoce. Alors, il est bien évident que plus vous prenez la tumeur dans son stade précoce, plus vous avez de chances de traiter. C'est ce qui sous-tend les dépistages, les campagnes de dépistage, comme on a parlé tout à l'heure sur le cancer colorectal.
Vous vouliez ajouter quelque chose peut-être?
Oui, juste pour ajouter un truc, des choses importantes. Vous avez mentionné le voyage sur la Lune. En fait, beaucoup de progrès ont été faits en médecine par, on va dire, du translationnel entre ce qui pouvait être fait en recherche fondamentale dans des disciplines, j'allais dire, dures, c'est-à-dire mathématiques, physique, etc. Et tout d'un coup, les gens se sont dit, mais après tout, ces développements-là, je pourrais les appliquer pour la médecine. Je peux vous donner un exemple très simple qui est l'IRM, qui est aujourd'hui, et pas uniquement pour le cancer, une modalité d'imagerie qui est un standard où justement les gens déplorent qu'il n'y en ait pas assez parce que justement elles sont absolument embolisées tellement on en a besoin, où c'est l'imagerie de référence dans un certain nombre d'indications, par exemple pour les tumeurs cérébrales. Et bien l'IRM, c'est directement une translation de ce qui se faisait en physique il y a une cinquantaine d'années, qui était la spectroscopie, la résonance magnétique nucléaire qui était utilisée en physique. Quand on parle d'avancer dans la radiothérapie de protons, etc., c'est quelque chose qui vient de la physique nucléaire. C'est-à-dire qu'il y a 50 ans, c'était des équipes cliniques, un peu, qui avaient eu le courage d'aller un peu dans l'expérimentation, qui s'étaient rapprochées d'équipes de physique nucléaire ou de physique des particules, et qui venaient traiter des patients sur des accélérateurs de physique nucléaire. Le centre d'Orsay, où j'ai travaillé pendant un certain nombre d'années, c'était historiquement le premier synchrocyclotron français construit par Frédéric Joliot en 1957 et qui ensuite a été utilisé presque 40 ans plus tard pour traiter des tumeurs avec une précision assez remarquable. Et je crois qu'on peut généraliser beaucoup ces notions de transfert. Simplement, il y a deux problématiques. Il y a une problématique un peu de physique, de sciences fondamentales. Quand on dit physique, il peut y avoir de la génétique, il peut y avoir de la chimie, il peut y avoir des... Et à un moment donné, une idée, et ça c'est souvent une collaboration entre un médecin et un chercheur fondamental dans un autre domaine, qui tout d'un coup va dire, mais à propos ça, on pourrait l'appliquer pour un autre problème. On parle aujourd'hui beaucoup des nanotechnologies comme étant quelque chose d'avenir. Les nanotechnologies, ça a d'abord démarré dans l'industrie. Et à un moment donné, il y a quelques années, ils ont dit, mais à propos, on pourrait les appliquer pour faire tout un tas de traitements locaux. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que pendant longtemps sur le cancer, il y a eu une problématique de traitement global, c'est-à-dire il n'y avait pas tellement d'alternatives thérapeutiques. On faisait des traitements un peu standards, et puis si on arrivait à guérir, ça allait, et si on n'y arrivait pas... Alors qu'aujourd'hui, on voit bien que l'enjeu pour les prochaines années, c'est effectivement la personnalisation du traitement. Personnalisation du diagnostic, y compris au niveau biologique. C'est une tumeur particulière, avec des analyses particulières, et donc personnalisation du traitement.
Personnalisation
Personnalisation, c'est-à-dire il va y avoir des protocoles, pas à la carte, mais qui sont un peu une modalité thérapeutique, qui sont tout à fait adaptées, qui feront donc appel à ce moment-là à une combinaison soit d'éléments de diagnostic amont, soit d'éléments de traitement en aval. Et on voit bien que là, la translationnelle entre tout ce qui est recherche fondamentale, physique, etc., mathématiques, et la partie clinique, va avoir une grande importance. Et ça, c'est un des grands enjeux, c'est-à-dire tel type de tumeur, tel type d'imagerie, ce qui va permettre de pouvoir affiner le diagnostic, ce qui va permettre non seulement de pouvoir améliorer la guérison, mais également, parce qu'il y a quand même eu des progrès assez considérables ces dernières années, de pouvoir diminuer les séquelles. Et ça, c'est un grand enjeu. C'est-à-dire, avant, la première chose, c'était on essayait de guérir, et puis après, il fallait vivre avec les conséquences. Maintenant, il y a une vraie problématique, qui est une problématique non seulement de guérison, mais en plus de minimisation des séquelles. Pour tout un tas de raisons. Le centre où je travaillais avant, on avait pas mal de traitements qui étaient la radiothérapie des tumeurs de l'enfant. Notamment des tumeurs de cerveau de l'enfant, et donc tout ce qui était risque cognitif à long terme, risque de second cancer, puisque le traitement lui-même pouvait éventuellement générer 15 à 20 ans plus tard des cancers. Donc un enfant de 10 ans avec un risque de second cancer 15 ans après, il a 25 ans. Les retards cognitifs, donc c'est quelque chose auquel on est obligé de prendre, qu'on est obligé de prendre en compte dès le départ. Et ça, c'est quelque chose qui est assez, qui a beaucoup évolué ces dernières années avec l'amélioration de la guérison. On se dit maintenant, non seulement il faut qu'on ait une guérison améliorée, mais il faut qu'on ait une qualité de vie améliorée. Et donc toute cette amélioration, tout ce translationnel de technique doit contribuer à cela. Mieux cibler le traitement, diminuer les séquelles.
Docteur Martinez, peut-être, ou docteur Pellou, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose?
Oui, je voudrais dire que finalement, par l'évolution de la recherche, par l'évolution de ce qu'on appelle les sciences physiques, on finit peut-être par rejoindre les sciences humaines. On sait tous qu'on est unique, avec les déterminants qui sont sociaux, philosophiques, géographiques, etc. Et finalement, plus la science avance, plus la recherche avance, plus les technologies évoluent, plus on arrive à cette individualisation du traitement. Alors, je ne veux pas dire qu'il y aura un traitement pour chaque personne, mais je veux dire que par là, on arrêterait un peu ce que j'appellerais avant le traitement de masse, je dirais, pour arriver, c'est pas l'unicité, mais c'est l'adaptation d'un traitement en fonction des caractéristiques, je dirais, physico-chimiques de l'individu, sa génétique, mais aussi n'oublions pas quand même dans le cancer la partie humaine et la partie de l'humain, et parce que je crois, et psychologique, parce que évidemment ce n'est pas la réponse à tout, mais n'oublions pas ça au milieu de toutes les techniques.
Docteur Péto, peut-être.
Oui, peut-être pour rajouter quelque chose. Donc, il est évident que plus un cancer est traité tôt, plus le traitement est efficace. Et je crois que, comme l'a dit la personne, l'intervenant à côté de moi, c'est que ce qui est important, c'est il y a l'intervention sur la mortalité, hein, c'est-à-dire qu'on diminue régulièrement le nombre de décès, mais en même temps, on améliore la qualité de vie des gens que l'on traite. Hein, et je crois que ça, on n'en parle pas souvent. Hein, lorsqu'on intervient sur une tumeur du sein qui fait quelques millimètres, il est évident que ça ne fait pas le même délabrement chirurgical, radiothérapique, etc., que si on intervient sur une tumeur qui a plus de plusieurs centimètres. Donc je crois que ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Le but du jeu de la cancérologie à l'heure actuelle, c'est d'améliorer la mortalité, ça c'est quelque chose d'important, mais aussi d'améliorer ce qu'on appelle la morbidité. hein, c'est-à-dire diminuer les séquelles, socialiser le plus vite possible les gens, hein, qui restent le moins longtemps à l'hôpital, etc. Je crois que ça, c'est aussi un des grands enjeux des traitements que nous propose la physique à l'heure actuelle et la chirurgie et la chimiothérapie aussi.
Alors, je crois, mesdames, messieurs, que vous avez aussi envie de prendre la parole. Si vous êtes venu, certes c'est pour entendre, mais c'est peut-être aussi pour partager vos connaissances. Alors, je ne sais pas, je peux vous passer le micro, vous me dites, vous avez des questions, ou alors je continue à poser mes questions, mais ce serait dommage. Alors, écoutez, je crois que j'ai juste une petite question à vous poser, moi. Je me dis, est-ce que finalement cette cellule cancéreuse, est-ce qu'elle est en chaque individu dès la naissance ou pas?
Donc, si vous voulez, chaque fois qu'il y a un certain nombre de cellules qui se créent,
oui,
il y a une cellule anormale qui apparaît. Hein? Tous les jours, hein, on crée des cellules anormales et notre organisme a des moyens de réguler ça. Hein, on a ce qu'on appelle des lymphocytes T, natural killer, hein, qui vont détruire ces cellules. La problématique qu'il y a, c'est qu'au niveau génétique, tout le monde n'est pas armé, n'a pas les mêmes capacités de destruction de ces cellules. Hein, donc tout le monde n'a pas la même capacité de destruction des cellules. Et à côté de ça, ces cellules deviennent anormales, pas par le fait du hasard, mais elles deviennent anormales parce qu'il y a des stimulations, des agressions qui favorisent l'émergence de ces cellules. Donc, comme je vous l'ai dit, que chaque fois qu'il y avait un certain nombre de cellules qui se créent, il y a une cellule anormale qui apparaît, par exemple, un coup de soleil, on refait la totalité de sa peau, donc il est évident qu'on va refaire beaucoup, beaucoup de cellules, et donc il y a des cellules anormales qui vont apparaître. Le tabac est un agresseur. Hein ? Le fait de fumer, hein, on va entraîner des modifications au niveau des chromosomes qui vont favoriser. Donc, il faut voir le cancer comme un déséquilibre, on va dire, entre les mécanismes d'agression et les mécanismes de réparation. Les mécanismes de réparation, on ne les maîtrise pas. Hein, ou très peu, hein, parce que souvent c'est génétique. Alors on a montré qu'il y avait certains aliments, hein, qui pouvaient aider, hein, certains nutriments, hein, qui pouvaient aider à la réparation cellulaire, ce qu'on appelle les antioxydants, des choses comme ça. Et en même temps, donc il y a des éléments que l'on peut maîtriser, hein, c'est le tabac, le fait d'avoir une activité, le fait d'avoir ou pas d'activité physique, etc. Hein? Donc c'est un déséquilibre entre les deux, mais ces cellules cancéreuses apparaissent tout au long de notre vie. Hein?
Donc nous avons ces cellules en nous et elles sont
détruites au fur et à mesure.
D'accord.
En théorie.
Un peu comme les cellules blanches, et
c'est
ça.
C'est prolongé. Donc effectivement, on a un phénomène que l'on a très tôt qui s'appelle l'apoptose, qui est pour les cellules, c'est-à-dire c'est le suicide programmé d'une cellule. Lorsque pour par exemple, parce que votre cellule a subi un stress et qu'il y a eu un endommagement de l'ADN, et que cette cellule constate qu'effectivement votre ADN est endommagé et que donc à long terme ça peut conduire à un cancer, elle va induire son propre suicide. C'est ce qu'on appelle l'apoptose. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est tout à fait naturel, parce qu'il est bien évident que dès les cellules qui se créent, il y en a qu'il faut qu'ils meurent, parce qu'autrement, l'évolution de la vie n'est qu'une perpétuelle suite d'apoptose cellulaire. Il y a des cellules qu'il faut qu'elles meurent, il faut que le corps se débarrasse de ces cellules. Effectivement, ce qui est grave, c'est quand une cellule arrive à passer ce signal et ne va pas considérer qu'elle est suffisamment atteinte par un stress quelconque, qui peut être du tabac, qui peut être un coup de soleil, qui peut être un rayonnement ionisant ou toute autre chose.
Qui peut être aussi des aliments.
Pourquoi pas? Enfin, je veux dire, ça peut être effectivement tout un tas de stress qui va stresser la cellule et qui va provoquer ce dommage à l'ADN. Si les mécanismes de réparation ne réparent pas cette cellule, et que par hasard enfin disons pas par hasard, que le mécanisme d'apoptose n'est pas enclenché, eh bien ça va conduire à une création d'un cancer. Et ça c'est un chantier qu'il ne faudrait pas oublier, parce que en tant que physicien j'ai découvert ce chantier récemment, notamment pour justement pour bien comprendre comment ces nouveaux types de traitements par rayonnement ionisant avaient un intérêt par rapport à d'autres types de rayonnement pour tuer ces cellules, ce qu'on a fait, qu'on appelle l'efficacité biologique, c'est-à-dire pourquoi tel type de particules vont mieux tuer les cellules cancéreuses que d'autres. Et donc, il y a tout un pan d'études c'est la radiobiologie, qui est absolument fantastique, enfin, pour moi qui est fantastique, qui consiste effectivement à montrer que chaque individu, vous, moi, chaque personne dans cette assistance, a une sensibilité à un rayonnement, à un traitement tout à fait différent. Il y a des gens qui sont très sensibles, ça peut être des maladies d'ailleurs, d'autres qui sont moins sensibles et que donc effectivement, il faut au préalable, avant que vous puissiez avoir une irradiation, avoir un traitement, tester votre capacité à subir cette irradiation. Mais c'est aussi, effectivement, je parlais tout à l'heure de Mars,
oui.
C'est que on est en permanence bombardé par des particules, on est protégé par l'atmosphère, mais si vous allez sur la Lune, déjà ça peut être risqué si vous êtes en cours de voyage subi à une éruption du Soleil, ce qui a pu arriver pour certains astronautes. Mais si vous allez sur Mars, c'est tout un autre problème, parce que là vous allez subir un bombardement pendant un laps de temps relativement long. Donc c'est quelque chose qui est normal, naturel, qui existe. Et donc pouvoir se protéger, pour pouvoir comprendre les mécanismes d'endommagement, les mécanismes de signalisation, comment une cellule va signaler et enclencher un mécanisme de réparation. Alors on parle par exemple des effets des faibles doses. Il y a actuellement un gros débat suite aux différents accidents nucléaires, dire est-ce que les mécanismes de réparation suite à un rayonnement sont enclenchés à des niveaux très faibles, ce qu'on appelle la sensibilité au faible rayonnement. Est-ce que oui ou non, est-ce que les cellules n'ont pas un certain retard à l'allumage qui fait que certains rayonnements très faibles sont finalement plus dangereux que des rayonnements plus importants où la cellule va tout de suite enclencher le mécanisme de réparation. Tout ça, c'est un champ d'investissement qui se fait en parallèle à toutes les techniques, disons, plus instrumentales et plus d'imagerie, de traitement, de rayonnement, mais qui est fondamental, parce que c'est la compréhension de ces mécanismes. Bon, je parlais de l'apoptose, le suicide des cellules. Jusqu'à présent, on étudiait beaucoup le fait qu'une cellule va véhiculer à une autre cellule un mécanisme pour dire, voilà, tu te suicides parce que tu as été... Mais il y a aussi des mécanismes internes utilisant d'autres parties de la cellule qui sont moins connues et qui sont actuellement sous les feux des investigations des biologistes qui utilisent par exemple les mitochondries qui sont la centrale énergétique des cellules. Donc toujours pour vous dire que à côté de ce plan d'investigation qui consiste à utiliser la technologie pour le traitement, pour l'imagerie, pour le diagnostic, il y a des développements très forts en termes de radiobiologie et qui sont extrêmement importants pour la compréhension de ces mécanismes du cancer.
Est-ce que ça suscite des questions? Oui.
Alors moi, ce n'est pas une question, c'est juste un petit clin d'œil. On fustige toujours en premier le soleil et en second le tabac. Je pense qu'il ne faudrait pas oublier les gaz d'échappement des voitures, il ne faudrait pas oublier tous les matières plastiques qui nous entourent, qui sont faites à base de pétrole et d'autres choses, qui créent beaucoup d'irritations, de démangeaisons, qui finissent par des plaques rouges chez certaines personnes et qui conduisent à des maladies qui peuvent rejoindre certains cancers. Donc le tabac, certes, le soleil aussi, mais on est quand même entouré de multiples risques.
Tout à fait. Simplement, 30 secondes, c'est pour ça que je n'ai pas voulu préciser, c'est que c'est ce qu'on appelle un stress. Un stress peut avoir d'origine diverse, et le stress peut être... on peut être sensible à un stress à des niveaux très faibles. Alors, j'ai parlé des rayonnements, mais ça peut être effectivement les pesticides pour un agriculteur, ça peut être l'environnement, même de chez vous, par exemple, nous en Auvergne, on a beaucoup de vieilles caves avec de la terre volcanique et le radon, qui est un gaz radioactif et qui peut effectivement provoquer, même à des faibles doses, des cancers pulmonaires.
Merci Gérard Montarou.
Voilà, ça c'est l'épidémiologie oui. qui intervient. Hein, c'est-à-dire, bon, il y a 180 000 décès hein, par an dus au cancer. Il y en a 60 000 qui sont dus au tabac. Donc le reste, et le tabac, c'est quelque chose qu'on peut maîtriser. Les rayonnements du radon, ça je ne peux pas les maîtriser. Les plastiques, j'ai difficulté à les maîtriser. Les gaz d'échappement, c'est encore plus. Peut-être en allant sur la Lune, par contre. Mais on vient de me dire qu'il y avait d'autres risques. Donc je ne sais pas, je vais peut-être hésiter là-dedans. Voilà, je crois que la première cause, c'est le tabac, hein, qu'on soit tous d'accord là-dessus. Bon, après, c'est facile ou pas d'arrêter. Donc tout le monde sait que c'est complexe. Je suis médecin généraliste. Donc je sais la complexité qu'il y a sur l'arrêt du tabac, mais c'est quand même la grande cause. Après vient le soleil, mais bien après, hein, le tiers des cancers, c'est quand même sont dus au tabac, et pas que les cancers pulmonaires. Hein, ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut recter aujourd'hui. Hein, c'est le tabac intervient sur le cancer de la vessie, sur le cancer de l'œsophage, sur le cancer du pancréas, sur tous les cancers.
Sur la bouche.
Sur la bouche. C'est le premier contact hein, à de la cigarette. Hein.
Oui.
Voilà. Voilà. Donc c'était la mise au point que je voulais faire, mais parce que c'est quelque chose qu'on peut maîtriser. Hein, moi je suis tout à fait d'accord hein, pour dire que les pesticides dans l'alimentation c'est pas terrible, hein, que y a certains produits qui sont pas terribles, tout ça. Mais le problème qu'il y a, moi lorsque je mange des fruits, même si on me dit qu'ils sont bio, je sais pas comment ils ont été traités.
Oui. Alors docteur Pitou, puis maintenant docteur Martinez, vous voulez ajouter quelque chose?
Non, je vais pas dire que le tabac n'est pas un facteur de risque.
Oui.
Je me rendrais ridicule. Mais quand même.
Oui.
Oui. Ok. Mais n'oublions pas quand même tous les autres facteurs de risque. Alors c'est vrai que en mettant en avant ce grand méchant tabac,
oui.
C'est un peu facile d'oublier toutes les autres causes. Et bon, je dirais la nutrition quand même, avec tous les problèmes, alors je vais pas revenir sur les pesticides, sur la nourriture un peu trop costaud, etc. N'oublions pas quand même, moi j'ai une expérience, quand je suis arrivée à Carcassonne, il y a 27 ans, maintenant 28 ans, ben mon nombre de cancers du poumon, c'était des cancers anaplasiques à petites cellules qu'on ne voit plus maintenant.
Oui.
Et que quand même, je voyais chez les gens qui travaillaient vers Salsigne, là, dans les mines, etc. Il y avait le radon, il y avait pas mal de toxicité. J'avais pas mal de patients qui faisaient de lymphome, qui étaient quand même la plupart du temps des agriculteurs qui utilisaient les pesticides. J'avais pas mal de cancers cutanés de la peau, c'était aussi dans la vallée de Salsigne, avec l'arsenic. Donc, ok, il y a un grand méchant là, que c'est facile de mettre en avant, et puis ça culpabilise tout le monde. Alors je suis d'accord, mais n'oublions pas tout le reste. Il y a quand même l'alcool, hein, il y a quand même tous les toxiques, donc voilà, et puis oui, mais bon, il y en a d'autres, il y a quand même des cancers, parce que voilà, le grand mot cancer, c'est le cancer, mais il y a des cancers. Et tous, ils ne sont pas... Hein, l'adénocarcinome pulmonaire, ce n'est pas l'anaplasie pulmonaire, ce n'est pas l'hypodermoïde pulmonaire. Et puis, oui, ça donne les cancers de la vessie, mais n'oublions pas toutes les autres causes de cancer. Voilà, moi, c'est qu'à un moment donné, je suis d'accord, il ne faut pas fumer. Je ne vais pas dire qu'il faut fumer, hein, je ne vais pas faire de la provoque, mais n'oublions pas toutes les autres causes de cancer. Effectivement, le soleil, hein, avec les mélanomes, les cancers cutanés. N'oublions pas la nutrition avec les cancers du côlon et du rectum. N'oublions pas tous les produits toxiques dans l'agriculture. Hein. N'oublions pas des usines qui ont produit quand même dans certains lieux, par ici, je ne les citerai pas, avec quand même sur une année la découverte de 10 à 15 cancers de testicules quand on en voyait qu'un ou deux tous les 3 ans. Donc n'oublions pas aussi tout notre environnement, parce que ça permet de mettre le poids qui est réel sur quelque chose, ça permet d'oublier un peu tout le reste et de le mâcher.
Je crois qu'on l'a bien compris. Voilà. Alors, peut-être que Régis Ferrand, vous avez...
Oui, je voulais faire deux commentaires. Oui. Le premier, c'est que la vie, ça tue. Ça, c'est un truc bien connu. Il y a un fait, c'est que quand on fait des... j'avais pas mal travaillé avec les épidémiologistes à l'Institut Gustave Roussy, et notamment, quand on, une des questions qu'on se pose toujours, c'est, mais à propos, est-ce que notre mode de vie a tellement changé et qui fait que le taux de cancer a été multiplié, etc. Parmi les facteurs les plus importants, il y a d'abord le fait que la population vit de plus en plus vieux. Ce qui est le premier facteur. C'est-à-dire, je suis le premier, je ne fume pas, alors je peux en parler très librement. C'est vrai qu'on a des facteurs que l'on connaît, qui sont directement carcinogènes, donc sur lesquels on peut agir. Je crois que c'est ça. Ça, c'est un truc qu'on dit, ben là, il suffit d'arrêter, et puis tout de suite, vous diminuez le stress sur les cellules. Après, il y a le fait que, par exemple, on parle que pour le cancer de la prostate, par exemple, l'adénocarcinome prostatique, eh ben, 90 ou 95 ans, quasiment tous les hommes ont des cellules cancéreuses latentes ou un peu plus, etc. Donc ça veut dire que quelque part, ça va avec la vie. Moi, je compare souvent ça quand je fais des présentations avec... C'est un peu comme un véhicule, c'est-à-dire qu'il y a une durée de vie de la pièce, et puis il faut faire un échange standard en 100 000 km, si on peut. Ça, c'est un élément par rapport à le fait que, en fait, plus on vit, plus on fait, plus les organes travaillent, plus à un moment donné... Il y a une probabilité qui augmente avec le temps d'avoir, on sait bien qu'il y a un facteur, un risque d'augmentation du cancer du sein.
À la même vitesse, enfants... tout ça, parce que si on est jeune ou un petit peu plus âgé, est-ce qu'il y a ces cellules qui travaillent plus très... rapidement ou moins rapidement? Enfin, je ne sais pas.
Moi, je crois que c'est surtout le problème qu'il y a, c'est surtout les mécanismes de réparation qui sont moins performants.
Oui. Hein, quand on est plus âgé?
Bien sûr.
Oui.
Hein, parce que toutes les cellules fonctionnent moins bien. En même temps, elles se développent moins bien, et donc une cellule cancéreuse va mettre plus de temps pour se développer, mais en même temps les mécanismes de réparation fonctionnent moins bien. C'est pour ça qu'avec l'âge on commence à avoir du cholestérol, avec l'âge on commence à avoir de l'hypertension artérielle, parce que bon, notre organisme fatigue, et donc moi je pense que d'abord, comme disait l'interlocuteur tout à l'heure, voilà, tout à l'heure, ben, les mécanismes d'apoptose se font sûrement moins bien, parce que justement on vit plus longtemps, donc la cellule se dit, mon patron il a vécu 90 ans, mais pourquoi pas moi je vivrai 90 ans de plus, donc je pense qu'il y a ça, et surtout donc les mécanismes de réparation fonctionnent moins bien. Par contre, l'âge intervient beaucoup, c'est sur la dangerosité des cancers, donc nous on sait qu'un cancer qui survient chez un sujet jeunes, les cancers de l'enfant ou de la femme jeune, etc., sont des cancers qui sont très évolutifs, parce que tout le corps fonctionne beaucoup.
D'accord.
Et donc les cellules cancéreuses, au même titre que les autres cellules, sont hyperstimulées. Donc il y a les deux âges de la vie, la jeunesse où la cellule cancéreuse va se comporter comme une cellule standard et donc va se développer beaucoup plus, et après un certain âge où les mécanismes de réparation deviennent moins performants.
Merci docteur Philippe Pitour. Mais je crois que vous n'aviez pas fini, Régis Ferrand, de parler.
Je voulais faire un autre commentaire sur le... Parce que là, on parle beaucoup des causes, le dépistage, enfin la prévention. On peut essayer de minimiser un certain nombre de causes, notamment des causes bien connues, entre guillemets, sur lesquelles on peut agir. Mais il n'empêche que... J'allais presque dire que le cancer, c'est dans l'ordre des choses, puisque de toute façon, à partir du moment où on a un remplacement cellulaire, il y a une probabilité, et plus on vit, plus il y a cette probabilité. Et le point que je voulais signaler, c'est que plus les études avancent, et là je parle notamment sur... plus on découvre, alors ça, si on regarde, j'allais dire, la cellule dans tous ses aspects, et le corps même comme assemblage de cellules, assemblage intelligent de cellules, plus on découvre à quel point c'est quelque chose d'extraordinaire en termes de mécanisme, en termes de... Enfin, une cellule, c'est quelque chose de formidable. La capacité de... C'est-à-dire, dès qu'il y a un problème, il y a une espèce d'usine de réparation extraordinaire, avec tout un pool enzymatique extrêmement complexe qui va réparer l'ADN, vérifier... Enfin, c'est une usine de réparation merveilleuse. Et donc, toutes ces propriétés extraordinaires, la cellule cancéreuse, qui n'est jamais que, passez-moi l'expression, une cellule normale un peu pervertie, les a. et en plus va carrément elle-même pouvoir développer, évoluer et avoir des capacités de résistance par rapport au traitement. La difficulté des traitements du cancer, c'est qu'on a d'abord affaire à des cellules qui ont des propriétés tout à fait remarquables de camouflage, de résistance, de détournement, par exemple, de... Enfin, moi, j'ai pu voir souvent au bloc opératoire à quel point il y avait certaines tumeurs qui détournaient les vaisseaux d'irrigation normaux, par exemple, à leur profit, en envoyant tout un tas de signaux, hormonaux ou pas, pour pouvoir détourner. Enfin, on regarde comment ça se passe, on se dit, mais c'est extraordinaire la capacité qu'elle a de pouvoir exploiter. Quand on parle de métastase, par exemple, c'est un truc qui est quand même, pour beaucoup de cancers, le facteur majeur qui affecte le pronostic, qui met le pronostic vital en jeu. Ben c'est quand même des cellules qui sont à un endroit, qui ont la capacité de franchir la membrane des vaisseaux, de se promener, de retraverser la membrane, de se fixer à un autre endroit et là de développer des tumeurs satellites. Mais quand on est le mécanisme aujourd'hui de métastase, il y a des études récentes qui ont été faites, c'est quelque chose d'extraordinaire, enfin au sens premier du terme. Et donc lutter contre ça, ça demande une intelligence, là c'est le cerveau, j'allais dire, de toute l'espèce humaine, une intelligence extraordinaire pour essayer de lutter contre cela.
Gérard Montaro, peut-être vous vouliez ajouter quelque chose, compléter ce que vient de dire Régis Ferrand.
Oui, enfin, je confirme.
Votre prêt, s'il vous plaît.
Je confirme que les cellules ont une capacité, et ce qui fait toute, entre guillemets, la beauté de ce monde, c'est que le phénomène de signalisation, de tout ce qui entoure la propagation des cellules, qu'elles soient une cellule cancéreuse, est vraiment quelque chose d'ahurissant, notamment par exemple pour un physicien comme moi qui croyait que la physique était quelque chose, la chose la plus complexe qu'il pouvait y avoir en termes de science. J'ai découvert un monde qui était bien plus complexe et bien plus organisé que ne pouvait être la physique. Ceci étant dit, il est vrai que c'est justement la capacité de pouvoir tuer ces cellules cancéreuses qui est actuellement, je pense, un des focus des développements. Et je rappellerai que bon, il y a beaucoup d'espoirs qui sont mis justement actuellement sur l'utilisation de méthodes dont j'ai cité tout à l'heure l'utilisation de cellules souches ou l'hormonothérapie qui se fait notamment justement à Curie et qui est effectivement le fait de combattre les cellules cancéreuses sur leur propre terrain, c'est-à-dire d'essayer d'utiliser un arsenal vraiment cellulaire pour pouvoir réfréner la propagation des cellules cancéreuses et éventuellement effectivement pouvoir s'attaquer à ces tumeurs et à leur capacité de se fixer, de se propager et de créer des nids, des tumeurs en se vascularisant, en développant effectivement des phénomènes qui vascularisent la tumeur pour pouvoir la permettre de vivre.
On va se tourner du côté du public peut-être qui veut compléter, ajouter, poser une question.
Bonsoir. Je voudrais vous poser une question à propos de la dangerosité la fréquence des mammographies. Parce que j'ai lu des articles comme quoi, c'est indispensable pour une bonne prévention du cancer du sein, mais que dans certains cas, quand il y a une... il y a eu des recherches qui nous ont appris que elle pouvait entraîner un endommagement de l'ADN, hein, de les cellules. Voilà.
Je crois qu'il faut en toute chose raison garder. C'est-à-dire que quand on utilise les mammographies dans le cadre d'un dépistage, on le fait tous les deux ans. Et on s'inquiète quand on fait une mammographie par rapport à ces éléments-là, mais le nombre parfois de radios du poumon, de radios du genou, de radios de ci, de radios de là, je crois que le rapport bénéfice-risque est totalement en faveur de la mammographie. Ce qu'on peut reprocher peut-être au dépistage du cancer du sein par mammographie, c'est peut-être de surtraiter les gens. C'est-à-dire que la mammographie peut permettre de découvrir des lésions qu'on appelle in situ, les lobulaires in situ ou les carcinomes canaliers in situ, et notamment dans les lobulaires in situ, peut-être des lésions qui n'auraient jamais évolué. Je dirais des pré-cancers. Mais après, le risque, franchement, quand on commence les mammographies à 50 ans jusqu'à 74, c'est ça? J'étais entre 75 et 74. Bon, on le fait tous les deux ans, franchement, par rapport, je dirais même... soyons clairs aussi, hein, les techniques évoluent en termes de radiologie. Maintenant, les appareils qu'on a maintenant délivrent moins de doses que ce que ça pouvait être à une autre période. Bon, là, franchement, c'est pas un risque, quoi. Enfin, voilà.
Docteur Martinez, vous passez le micro au docteur Pé.
Peut-être pour ajouter une chose, effectivement, il y a des études, mais de toute façon, c'est les rayonnements. Hein. Donc, lorsqu'on irradie un tissu, on va créer un certain nombre de désordres au niveau des cellules et de l'ADN. La problématique qu'il y a, comme on s'est dit, c'est qu'il y a des mécanismes de réparation qui se font. Donc, où il peut y avoir problème, c'est lorsqu'on irradie trop la personne. Dans ces cas-là, à l'heure actuelle, la question ne se pose plus, puisque le fait de numériser les radios, on diminue de beaucoup la quantité de rayons. Et le problème qu'il y a, c'est de ne pas donner à la cellule le temps de se reconstruire, de se refaire, de se réparer. Donc la problématique, c'est pas tellement, comme disait tout à l'heure l'intervenant, c'est pas tellement la quantité de doses, mais la répétition des doses qui peut être toxique. Hein. Et donc je crois que une mammographie tous les deux ans, de toute façon, il y a des cohortes qui sont faites, hein, c'est-à-dire qu'on suit des femmes depuis des dizaines d'années qui ont fait des mammographies régulièrement, tout ça, et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas forcément plus de cancer chez ces femmes que l'on suivait, que les femmes chez qui on suivait. Que n'en suivez pas. Voilà. Donc je crois qu'il y a ça. Comme tout, hein, dans la médecine, il y a des choses, d'un côté c'est bien et de l'autre côté c'est pas bien. La radiothérapie, les rayonnements médicaux, c'est quelque chose de bien. La radioactivité militaire, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Hein. C'est une question de dose. Hein. Donc voilà, je crois que vraiment il faut ça. Je vous dis, à l'heure actuelle, les mammographies sont faites pour les appareils de mammographie numérique, hein, délivrent de moins en moins de doses, enfin tous les appareils de radiologie, hein, l'augmentation de le travail que font les physiciens, hein, c'est pour diminuer l'irradiation des personnes, hein, pour chaque radio, et surtout je vous dis, c'est pas faire une mammographie tous les 3 jours, parce que dans ces cas-là, la cellule qui a été abîmée par l'irradiation n'a pas eu le temps de se refaire. Hein, voilà, c'est ce qu'il faut garder à l'esprit pour tout rayonnement. Hein, une radio pulmonaire, si vous la faites tous les 8 jours, ben, au bout d'un certain temps, les capacités de réparation de vos poumons ne vont pas suivre.
Régis Ferrand, peut-être.
Oui, je voulais, alors, puisque c'est l'occasion un peu de partager sur quelques. Je voulais ouvrir une petite parenthèse sur les problématiques de radioprotection, justement, parce qu'au fond, c'est de ça dont on parle. Alors, il y a deux éléments, c'est-à-dire par rapport au traitement des cancers, tout ce qui est diagnostic, utilisation de rayonnement ionisant et radiothérapie. Et puis il y a le parallèle par rapport au nucléaire, qui, avec une actualité récente, notamment au Japon. Alors juste pour vous donner quelques informations, pendant des années, les données de radioprotection qui permettaient de prédire le risque de cancer, de la thyroïde, enfin, etc., c'était des données basées sur Hiroshima et Nagasaki. Et parce qu'à la suite de des deux bombes atomiques, le gouvernement américain, ayant quand même quelques scrupules avoir balancé les bombes, a dépensé des millions et des millions de dollars pour aider les Japonais, pour faire des enquêtes. Alors c'était des enquêtes qui étaient... c'est des enquêtes pharaoniques. C'est-à-dire qu'il fallait reconstituer auprès des survivants, faire un suivi médical précis, et essayer de reconstituer avec eux où ils étaient situés dans la ville, qu'est-ce qu'ils avaient pu recevoir comme rayonnement. Et une bombe atomique, c'est pas quelque chose qui est très bien étalonné d'un point de vue dosage, et c'est sur la base de Hiroshima et Nagasaki que pendant 30 à 40 ans, jusqu'à Tchernobyl en fait, on a pu faire des estimations et notamment faire les fameuses courbes d'évaluation de quels sont les risques de cancer en fonction de la dose reçue. Alors, Il y a eu Hiroshima, il y a eu Nagasaki, ensuite il y a eu quelques accidents de radiothérapie, il y a eu Tchernobyl qui lui par contre a donné beaucoup de doses, mais ça ce sont des problématiques de haute dose. C'est-à-dire il y a des populations de centaines de personnes qui ont reçu des doses considérables sur lesquelles on peut tracer une courbe en disant mais il a reçu telle dose et donc il a 20% de chance de développer un cancer. Et le point que mentionnait Gérard Montaroux, c'est que se passe-t-il quand j'approche de zéro ? Et c'est ce qui se passe avec une mammographie, c'est ce qui se passe avec un coup de soleil d'ailleurs, c'est la même chose. C'est-à-dire, quand je commence à arriver dans des doses infinitésimales, est-ce que j'ai une chance infinitésimale d'avoir un cancer ? Est-ce que c'est quelque chose de linéaire ? Ou est-ce qu'en dessous de quelque chose, il ne se passera rien ? Ce qu'on peut dire, c'est que il y a toujours un débat, il y a beaucoup d'études qui sont faites en radioprotection. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à dose infinitésimale, la chance est quand même infinitésimale, sinon on ne prescrirait pas des scanners, qui sont plus ionisants que les mammographies d'ailleurs. On ne prescrirait pas des cancers, on ne prescrirait pas de radiopulmonaire et pas de mammographie. Si à chaque coup de soleil on risquait le mélanome de la peau, je pense qu'on ne s'exposerait pas beaucoup. Donc heureusement, ce n'est pas ça. Pour vous donner juste un ordre d'idée, quand on fait une radiothérapie, par exemple, les doses que l'on donne, c'est, bon, juste pour citer les unités, on donne 50 grays. Eh bien, la dose d'une mammographie, c'est quelques milligrés. Vous voyez qu'on a un facteur 1000 entre ce qui est donné comme dose thérapeutique et ce qu'on peut recevoir pour une dose de mammographie. Alors, il y a toujours une terra incognita. Je ne sais pas si il y avait une mammographie par jour pendant 20 ans, est-ce que les pourcentages sont faits, mais en tout cas, par rapport à ce qui est fait pour le dépistage, on est dans de l'ordre du considéré comme négligeable, voilà.
Je voudrais simplement,
je vous en prie,
c'est quelque chose qu'on a étudié au laboratoire, c'est que quand même, on a étudié des irradiations de cellules de mélanome, donc cancer de la peau, qui sont particulièrement radiorésistantes au traitement conventionnel, et on s'est aperçu en les bombardant avec des neutrons, et qui sont des particules particulièrement agressives pour les cellules, que lorsqu'on était à des doses très très faibles, on partait de zéro, et puis on augmentait la dose comme ça, on s'apercevait qu'il y avait une région, ce qu'on appelait d'hypersensibilité, où les cellules étaient particulièrement tuées. Et qu'ensuite, lorsqu'on venait à des doses un peu plus importantes, bien que faibles, et bien de nouveau, on retombait sur les données qu'on avait traditionnelles. Et les cliniciens, les biologistes qui travaillaient avec nous interprétaient ça en disant, ben, les cellules, elles reçoivent une petite dose et elles n'ont pas la sensibilité de pouvoir enclencher le mécanisme de réparation. C'est-à-dire, en gros, elles sont aveugles à la réparation sur une petite dose. Et ça, effectivement, c'était fonction de la dose reçue, de la façon dont la dose était donnée, c'est-à-dire la quantité des doses par seconde, mais il y avait effectivement un effet très net.
Une autre question pour monsieur.
Au sujet de la mammographie, je voudrais vous raconter non pas une anecdote, mais ce que j'ai entendu dire du prix Nobel Georges Charpak, alors qu'il était à Genève, la médecine du travail lui a demandé de passer une radiographie, et quand il a vu le type d'appareil qu'on allait utiliser, il a dit au manipulateur, moi qui suis capable de trier les particules une par une, moi qui peux compter les rayons X un par un, vous voulez me soumettre quelques secondes à ce type d'appareil, allez chercher d'autres cobayes. Monsieur était prix Nobel, il pouvait se le permettre. Donc, je voudrais poser quand même une question, parce que le docteur Martinez a dit tout à l'heure, on devrait parler des cancers et non pas du cancer. Et c'est bien que ne connaissant rien à la biologie, parce que je me doute qu'il y a plusieurs formes de cellules cancéreuses, qu'il s'agisse du cerveau, du sein, du colorectal ou ailleurs. Et donc, c'est à partir du moment où on a identifié la cellule malade qu'on va faire intervenir, ou que le biologiste, le médecin va faire intervenir le physicien pour savoir qu'est-ce qu'on va utiliser pour détruire les cellules cancéreuses. Alors vous, entre gens du métier, bien sûr, vous parlez volontairement de rayonnement, étant entendu que vous savez très bien de quoi il s'agit. dans le commun du mortel, dès qu'on parle de radioactivité et de rayonnement, il serait peut-être bon de rappeler qu'on peut avoir affaire soit à un transport de particules, qu'il s'agisse, à ce moment-là, on dit quand même les rayons alpha, les rayons bêta. Vous avez évoqué tout à l'heure la possibilité d'utiliser des protons. Ou alors ce qui est effectivement un rayonnement avec soit le rayon X, soit le rayon gamma. Alors comment, entre le médecin et les physiciens, comment faites-vous pour choisir le type de mécanisme qu'on va utiliser pour détruire les cellules et à quelle dose? Puisqu'il s'agit entre les rayons X et les rayons gamma, les uns sont 1000 fois plus énergétiques au moins que les autres. Et s'il s'agit des particules, il y aura à la fois un problème de vitesse et de masse. Alors comment faites-vous pour trancher dans l'immensité des solutions possibles?
Alors ça c'est très clair. Celui qui tranche et qui va conseiller le diagnostic, c'est le médecin. Le physicien ou les instrumentalistes vont essayer de mettre au point des outils et des méthodes en essayant, et c'est pas toujours facile, mais de prendre conseil ou d'avoir, si vous voulez, le conseil des cliniciens. C'est là où il y a toute la difficulté du dialogue entre les physiciens et les cliniciens, c'est d'arriver à ce que les physiciens ne fassent pas des usines à gaz, comme on dit chez nous, tout seul dans un laboratoire qui ne sert à rien, ou effectivement que le clinicien ait suffisamment de culture pour pouvoir faire passer ses demandes auprès des physiciens. Mais au niveau du traitement, c'est le médecin qui délivre le qui choisit, bien entendu, quel est le moyen pour pouvoir traiter le cancer. Jamais un physicien se permettra, d'empiéter sur cette chose-là. Alors, pour en revenir à l'aspect du choix, effectivement, des fois, la naissance d'une technique, j'ai en tête là tout de suite, là, quand vous parliez de quelque chose qui chez nous actuellement est beaucoup à la mode, c'est-à-dire que j'ai parlé de protons pour pouvoir traiter les tumeurs et les cellules. L'argument de base, c'est de dire, lorsque vous envoyez un proton dans la matière biologique, soit un hadron, d'où le terme hadronthérapie, il va se produire un phénomène physique qui fait que la dose, l'énergie délivrée, elle va être très localisée. À un moment donné, lorsque la particule va ralentir, il va avoir un dépôt de dose très brutal à un endroit très précis. Avant, il y a très peu de perte de dose, et après, pas du tout. L'intérêt, c'est de pouvoir justement cibler un volume bien particulier et mettre toute la dose que vous voulez délivrer à l'endroit de la tumeur, au contraire des électrons, des X, qui eux vont faire comme une balle de fusil et vont perdre de l'énergie sur tout le parcours. Mais dernièrement, on s'est dit, mais après tout, si on tirait avec le proton, mais en ayant mis la cible au-delà du patient, qu'est-ce qui va se passer? On sera dans une dose où on irradiera très peu la matière biologique, c'est-à-dire pour faire une liaison avec ce qu'on disait tout à l'heure, la radiographie avec ce type de particules aura très peu d'influence sur le tissu sain. Ce qu'on parlait à propos des mammographies, tout ça. Donc actuellement, un des points de développement, c'est de dire, on va faire de la radiographie, mais avec des protons. En mettant la cible, c'est-à-dire l'endroit où le proton devrait déposer le maximum d'énergie, donc devrait être le plus destructif vis-à-vis de tissu sain, au-delà du patient, dehors le patient. Donc vous êtes radiographé par des particules qui déposeront très peu d'énergie. Et donc on diminuera comme ça la dose qui sera fournie par une radiographie conventionnelle ou un scanner conventionnel. Et donc ça, il y a beaucoup actuellement, c'est quelque chose qui et ça, c'est né d'une idée, d'un dévoiement d'une méthode en disant, mais après tout, si je fais comme ça, qu'est-ce que ça va donner? Donc, le fondement pour trouver des bonnes méthodes, c'est d'une part arriver à avoir une entente entre des cliniciens et des physiciens. ou des chimistes ou des biologistes. Mais un dialogue, si vous voulez, entre ces deux mondes. Mais encore une fois, celui qui prescrit le traitement, c'est le clinicien.
Merci, cher Montarou. Juste avant de donner la parole au docteur et à Régis Ferrand, si vous êtes par là, bien sachez que nous sommes en direct sur Contact FM et que vous pouvez nous rejoindre au bistrot d'Augustin, puisque aujourd'hui c'est le bar des sciences où l'on parle de cancer. Je vous laisse la parole, le docteur Martinez.
Je voudrais revenir sur la collaboration physicien-médecin-radiothérapeute. S'il n'y a plus de physicien, il n'y a plus de radiothérapie actuellement. C'est-à-dire que sans eux, les radiothérapeutes ne peuvent plus traiter, à la fois par l'évolution des techniques, parce que dans l'évolution des techniques en radiothérapie, il y a toute cette recherche sur les particules, sur les rayonnements, mais il y a toute l'utilisation aussi de l'imagerie et de l'informatique, et du traitement informatique de l'imagerie. Si vous voulez, il y a 20 ans, je vais résumer, on traitait en faisant des carrés. Le faisceau est arrivé comme ça, on pouvait faire que des carrés ou des rectangles, d'accord. Maintenant, on peut faire n'importe quelle forme, on peut définir la zone des radiations. Il y a 20 ans, on utilisait les repères osseux avec des radios, maintenant on utilise le scanner, l'IRM, les... fusion d'images, etc. Donc il y a une évolution, je dirais, dans la recherche, et il y a une évolution aussi dans l'utilisation du rayonnement et dans l'utilisation de tout ce qui est radiologie et informatique. Et voilà, je crois que c'est le travail de radiothérapie, c'est une union à la fois des physiciens et des médecins.
Et peut-être pour répondre plus à la question que vous nous avez posée, donc si vous voulez, avant un traitement, il y a ce qu'on appelle une biopsie qui est réalisée, voire une chirurgie qui va enlever la pièce opératoire. Cette biopsie ou cette chirurgie va nous donner exactement quel est le type de tumeur. C'est l'examen anatomopathologique qu'on appelle, et donc le médecin qui va analyser ça, il va nous dire c'est tel type de tumeur. Nous savons ce type de tumeur, comment elle va se comporter vis-à-vis des rayons. Il y a aussi un des questionnements qu'on va avoir avec les radiothérapeutes et les physiciens, c'est de savoir où est placée la tumeur. Donc si les tumeurs sont sur la peau, on ne va pas utiliser les mêmes types de rayonnement pour des tumeurs profondes, etc. Donc c'est cette réflexion que l'on a entre la connaissance de la cellule et de son typage, de la cellule qui va nous dire tiens, cette cellule va être sensible à tel et tel type de rayonnement, et après charge aux radiothérapeutes ou aux physiciens d'amener le rayonnement que l'on veut au bon endroit. Et donc ça, c'est tout à fait l'intérêt des protons ou des choses comme ça. Voilà, et le but du jeu, c'est lui va nous dire, oui, mais vous savez, le rayonnement que vous me demandez, il va pas très loin. Alors donc, on va utiliser des techniques où on va faire tourner la source de rayonnement pour que vraiment l'endroit soit bien irradié et le maximum de doses à cet endroit et pas autour.
Pour compléter peut-être une chose importante, vous avez mentionné deux choses. Le premier, c'est il y a beaucoup de types de cancers. Ça, c'est la première chose qu'il faut avoir en tête. Quand on dit effectivement le cancer, c'est... forcément, quand on est un peu dans ce milieu-là, on a toujours des proches, des amis, des personnes qui nous sollicitent en disant « Alors, j'ai un cancer, tu me conseilles, qu'est-ce qu'on fait ?» Bon, c'est normal. Et alors, la première chose, c'est si tu ne me donnes pas... La première réponse qu'on peut leur donner, si tu ne me dis pas « Qu'est-ce que c'est situé ? Quel est le type histologique ?» etc., je ne peux rien te répondre. Parce que un cancer, ça ne veut absolument rien dire. Il y a autant de types de cancers que de types de tissus différents dans le corps humain. Et même pour un type de tissu donné, il y a toute une gamme avec des pronostics, des agressivités, des types histologiques et des types de traitements totalement différents. Donc on peut en citer des centaines. Et donc, à type de cancer particulier, type de traitement particulier. Et la chose, c'est vrai qu'on parle beaucoup de radiothérapie, c'est vrai que Jean-Raymond est assez sensibilisé. pluridisciplinaire, médecin. Alors, on peut parler de physicien, on peut parler de mathématicien, on peut parler de chimiste, on peut parler de physicien, par exemple, des membranes, etc. C'est une collaboration sur toutes ces modalités thérapeutiques. C'est-à-dire que quand on va travailler sur une molécule pharmacologique ou sur un produit de vectorisation et qu'on va se demander comment ce produit va pouvoir cibler les cellules, franchir certaines membranes et agir, etc., ça fait également appel à des notions de physique qui ne sont pas forcément aussi que du rayonnement ionisant. Je voudrais dire un truc particulier, encore une fois, la complexité de la cellule, c'est quelque chose de c'est extrêmement complexe. Et donc, le fondamentaliste au sens, je parlais des sciences dures, un peu au sens mathématique, physique, etc., lui, il va faire des équations. Ça marche pas très bien avec le vivant. Enfin, je veux dire, il y a des grandes limites. Et en fait, pour parler par exemple du rayonnement ionisant que je connais un peu, historiquement, tout le monde se réfère au couple, enfin en France au moins, au couple mythique Marie Curie-Claudius Regaud. Donc Marie Curie, prix Nobel de physique sur les rayonnements, qui a collaboré pendant des années avec Claudius Regaud, qui était un médecin biologiste, justement sur tous les aspects utilisation des rayonnements ionisants. Et donc, depuis cette époque-là, depuis les années 20, on va dire, enfin 1920, à la Fondation Curie, j'ai travaillé un certain nombre d'années, il y a eu des études, beaucoup d'études biologiques sur l'effet des cellules, sur les dégradations de l'ADN, sur les effets sur les mitochondries, les effets bystander, l'apoptose, enfin, je pourrais vous citer des centaines de choses. Il n'empêche qu'à l'arrivée aujourd'hui, sur les traitements en radiothérapie, c'est 60 ou 70 ans d'expérience clinique de la radiothérapie qui fixe les traitements et pas une quelconque modélisation des comportements cellulaires. C'est-à-dire, vous pouvez faire autant d'analyses que vous voulez. Et ça, Dieu sait que nous, on en avait fait, par exemple, des expériences avec des boîtes de pétri, des tas de lignées cellulaires où vous allez mesurer les effets de l'ADN, le nombre de cellules survivantes, l'effet biologique relatif. Vous pouvez faire autant de manipes que vous voulez. À la fin, vous dites, bon, alors j'ai étudié des traits de lignées cellulaires, les effets biologiques. Je vous dis, et maintenant, le patient qu'on doit traiter, c'est un enfant de 5 ans qui est atteint d'un craniopharyngium, dont l'histoire familiale, c'est ça. Et donc, quand on fait l'imagerie, je vois telle image. Comment je vais pouvoir corréler mes manips là, sur mes boîtes de pétri avec mes cellules et la dose qu'il faut donner à cet enfant-là ou à cette personne-là qui a 55 ans, qui a un diabète, qui a une histoire, qui a fumé pendant 5 ans, il y a 20 ans, comment je vais pouvoir corréler la sensibilité de la tumeur de cette personne-là, puisqu'on parle de l'être humain, là, c'est pas des... la sensibilité de ces organes qu'il faut protéger, par rapport à... Mais, eh bien, aujourd'hui, on ne sait pas très bien le faire, et c'est quand même, je trouve encore, les 70 ans d'expérience clinique qui ont, et tant mieux, enfin, c'est ce que je dis, prééminence par rapport à toutes sortes de modèles biologiques. Voilà, ça c'était un commentaire que je voulais...
Là vous rejoignez totalement ce que je pense, parce qu'effectivement, il y a les 70 ans d'expérience, un petit peu parfois de ce que j'appellerais l'intuition, parce que l'intuition ça marche aussi, et puis c'est la surveillance du patient. Et c'est vrai qu'on peut faire toutes les mesures physiques, tous les calculs très intelligents, en virtuel sur les ordinateurs, c'est passionnant, hein. Ça marche très bien sur l'ordinateur, en virtuel, on fait tourner, c'est parfait, on fait 4 champs, 5 champs, mais il faut continuer quand même à surveiller le patient, à discuter avec lui, à regarder quand c'est que la peau commence à rougir, comment elle rougit, s'il est fatigué, s'il a des effets secondaires, et voilà. C'est-à-dire qu'au-delà de toute la technique qui est nécessaire, au-delà de toute la recherche qui est importante, ben voilà, on reste quand même dans un dialogue singulier avec le patient, où il faut être là, il faut l'observer, il faut le surveiller, il faut discuter avec lui. Et parfois quand il vous dit « je vais pas bien », eh bien il va pas bien. Même si théoriquement le traitement va bien. Et je crois que voilà, il n'y a pas de vérité absolue de. Enfin, je voudrais pas dire ça, c'est pas qu'il n'y ait pas de vérité absolue de la science, mais la science elle est toujours en évolution, la recherche aussi. Et voilà. Et il faut pas. C'est nécessaire, c'est important, il faut continuer, ça apporte des choses, mais il ne faut pas en faire un tout, quoi. Fait.
Oui, je voudrais revenir à la protonthérapie. Vous l'avez présentée comme étant une technique de soins relativement intéressante parce qu'elle n'endommage pas les tissus sains avant la tumeur. Pourquoi il n'y a que 2 centres en France où on peut soigner ce type de tumeur? Pourquoi on le réserve à ce type de tumeur? Et une autre question qui n'a pas grand-chose à voir, est-ce qu'on soigne le cancer de la même façon dans tous les pays d'Europe? Est-ce que vous apprenez des autres pays? Est-ce que vous échangez? Est-ce qu'on va conseiller à des jeunes d'aller se faire soigner ailleurs parce qu'on le fait différemment? Voilà.
Je ne vais pas répondre sur les deux centres de protonthérapie parce que ça c'est un peu trop scientifique. Les pays européens, globalement, tous les traitements, il y a des référentiels, hein, des référentiels nationaux, des référentiels européens, des référentiels mondiaux, je dirais. Donc la radiothérapie dans telle indication, la chimio-dentelle, l'hormonothérapie dentelle, la chirurgie dentelle, les associations. Après, il n'y a pas à réagir que vous alliez. Ben, moi, je vais quand même résumer très simplement, hein, que vous soyez à Toulouse, à Montpellier, à Béziers, à Perpignan, à Carcassonne, sur 95%, 98% des cancers, le traitement, il est identique. Après, la seule différence, c'est quand on n'a pas la technique pour certaines indications. Et pourquoi il n'y a que deux centres de protonthérapie, là?
Alors, je vais compléter peut-être la réponse. Effectivement, aujourd'hui, en Europe, sur les indications, tout ce qu'on a, enfin de plus en plus, ce n'est pas des traitements que chacun fait dans son coin. Il y a beaucoup et de plus en plus, et pour les cancers, ce sont des protocoles européens dans lesquels tous les centres s'inscrivent et qui sont des traitements standards. C'est-à-dire qu'il y a tellement de pression qui a été mise, notamment sur les médecins, sur la justification du traitement, c'est-à-dire pour éviter, je mets ça entre parenthèses, l'effet apprenti sorcier, c'est-à-dire de dire, voilà, il faut pouvoir justifier pourquoi on fait ce traitement-là, et si on se différencie des autres, il faut le justifier aussi. Donc, il y a des études prospectives au niveau européen, il y a des protocoles, par exemple, je sais pas, pour les cancers de l'enfant, typiquement, 95%, 99% des enfants rentrent dans des protocoles européens, voire internationaux, où tout le monde est traité pareil, en disant telle ligne de chimiothérapie, telle ligne d'hormono, tel diagnostic, enfin, c'est très protocolisé, y compris dans la structure temporelle du traitement. On fait trois lignes de chimiothérapie, au bout de trois mois, on attaque un traitement, on fait une chirurgie ou pas, enfin c'est très... Alors, la seule différence qu'il pourrait y avoir, mais là, on est dans une zone un peu floue, c'est dans certains gros centres de recherche, où effectivement, ben, il y a plus de moyens, c'est là qu'il y a une concentration de chercheurs, c'est là qu'il y a le plus d'essais thérapeutiques, et s'il y a quelque chose qui est innovant, qui est mis en route dans le cadre de cet essai, ben c'est les patients qui sont dans le cadre de ces essais thérapeutiques qui en bénéficieront les premiers. Sachant qu'il y a quelques années, en général, de décalage, le temps d'évaluer, si par hasard on trouve un truc génial lors d'un essai thérapeutique, ben les patients des autres centres en bénéficieront 1, 2, 3, 4, 5 ans avant ceux qui ont bénéficié de l'essai. Mais ça, c'est juste la phase d'innovation thérapeutique.
Le micro.
Si ça marche pas, ou si c'est toxique ou trop toxique, bah, c'est les autres qui en auront bénéficié. Enfin, je sais pas comment
c'est,
dire.
Ça, c'est par contre. Alors, après, là, c'est un sujet qui est un peu plus, je sais pas si on peut dire polémique, etc. C'est toute la dimension médico-économique. Parce qu'on se dit toujours sur la santé, pour avoir travaillé beaucoup dans la partie protonthérapie, qui sont des traitements quand même assez coûteux, c'est une problématique générale qui n'est pas que liée à la radiothérapie. D'ailleurs, la radiothérapie ne coûte pas très cher au système de santé par rapport à tout ce qui peut être chimiothérapie, par exemple. C'est-à-dire, c'est l'accès aux modalités coûteuses et jusqu'où on est prêt, le système de santé publique, par exemple, en France, est prêt à dépenser pour un certain nombre de patients. C'est quelque chose qui est très polémique et un peu délicat, parce qu'on pourrait dire, il n'y a pas de limite. Enfin, je veux dire, plus on peut dépenser, etc., c'est choquant de dire je peux dépenser pour de l'industrie, pour des armements, etc., et pas donner le maximum. Si on est dans un système de santé et qu'on est dans un système budgétaire contraint, après, il y a une problématique compliquée qui est le rapport coût-bénéfice. Et ça, je ne vais pas amener de réponse à cette question-là, parce qu'un traitement par proton, enfin une installation, ça coûte plus cher qu'un traitement classique de radiothérapie. C'est des installations qui sont très complexes, je ne sais pas, le cyclotron, ça fait 200 tonnes, le bras de son ça fait 120 tonnes, c'est des petits centres de physique nucléaire. Qui donc, pour le coût d'un centre de proton, je pourrais me payer, un centre de proton, mettons, low cost, ça va coûter 50 millions d'euros, une machine de radiothérapie classique, ça va me coûter, allez, avec toutes les techniques, 2,5 millions. Si je veux prendre le NEC plus Ultra, 2,5 millions. Ça veut dire que pour un centre de protons, avec 3 salles, je pourrais me payer 20 machines de radiothérapie ultra modernes. Donc j'ai donc un facteur 7. Alors effectivement, pour un certain nombre d'indications, par exemple les tumeurs de l'enfant, etc., dosimétriquement, avec un peu de recul, on peut dire oui, là, il y a un bénéfice thérapeutique. Mais alors, maintenant, j'ai 50 millions, que vais-je faire? Je ne vais pas répondre aujourd'hui à cette question, mais c'est le vrai problème de santé publique, et ça ne se pose pas que pour la radiothérapie. Est-ce que je vais faire un investissement majeur sur l'herceptine, par exemple, ou sur des troisièmes lignes de chimiothérapie sur des cancers métastatiques, plutôt que d'investir dans des robots chirurgicaux pour le cancer de la prostate? Ça, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Pourquoi il y a 200 de protonthérapie en France? Je peux vous le dire, celui d'Orsay, historiquement, c'était un accélérateur de physique nucléaire qui a été reconverti. Donc, à la médecine, initialement, il n'a pas coûté bien cher, il a coûté un franc symbolique. Après, il a fallu l'entretenir, mais il a coûté un franc symbolique. Le centre de Nice, c'était un accélérateur qui avait été construit spécifiquement, et d'ailleurs pas pour la protonthérapie, pour la neutronthérapie, en 90. Et puis voilà, et donc les centres traitent quelques centaines de patients par an. Aujourd'hui, par exemple, pour cette technique-là, les gens... Enfin, les estimations raisonnables, je fais partie des gens raisonnables sur ce point-là, sans faire de prosélytisme, pensent que si c'était démocratisé, c'est-à-dire si je fais abstraction des contraintes des coûts et des contraintes économiques, on pense que 5 à 10% des radiothérapies par an en France, il y en a à peu près 200 000 par an, pourraient en bénéficier. Donc on parle entre 10 et 20 000 malades. Aujourd'hui, ils s'en traitent 700 par an en France.
Donc... Pour finir sur le sujet, peut-être, docteur Martinez.
Non, mais je crois qu'il faut... J'aimerais dire par rapport à ce que coûte la radiothérapie par rapport aux autres traitements. La radiothérapie, c'est 10% en termes d'investissement et de prix par rapport à la chimiothérapie. Alors, je ne ferai pas un parallèle entre le bénéfice de la radiothérapie et la chimiothérapie, c'est pas moi de le faire. Mais ce que je veux dire, c'est que la radiothérapie, finalement, sur un budget attribué au traitement du cancer, ça représente 10%. Après, je crois que ce qu'il faut comprendre par rapport à une nouvelle technique, et j'ai parlé de la protonthérapie, cette technique est indiquée actuellement dans certaines indications, pas dans toutes. Donc, il n'y a aucune raison de mettre des appareils dans tous les centres de radiothérapie en France. Ce qui est important, c'est que les médecins qui utilisent de la radiothérapie sachent que pour cette indication-là, chez cette personne-là, au lieu d'utiliser leur technique à eux, il faut qu'ils envoient dans un centre de protonthérapie. On ne peut pas en mettre partout, on ne peut pas diffuser partout. Bon. Et ensuite, avant de diffuser une technique, il faut d'abord l'avoir évaluée complètement. Et puis il faut que sur le territoire, avant de l'installer quelque part, il faut que les gens savent s'en servir. Parce que mettre un appareil, si on ne sait pas s'en servir, ça apporte très peu aux patients. Hein? Et il ne peut pas y avoir de tout partout. C'est la différence entre l'évolution technique et la proximité. À ce moment-là, pourquoi il n'y aurait pas un centre de radiothérapie à Limoux? Je prends le territoire d'ici. Pourquoi il n'y aurait pas un à Limoux? Pourquoi il n'y aurait pas un à Castelnaudary? Pourquoi il n'y aurait pas un à Lézignan? Parce qu'à un moment donné, entre l'importance financière de la structure, la nécessité des médecins spécialisés pour s'en occuper, on ne peut pas en avoir partout.
Gérard Montaroux, peut-être...
Oui, je suis tout à fait d'accord qu'il ne peut pas y en avoir partout. Je regrette quand même un peu qu'au niveau national, il y ait quand même une certaine un peu frilosité. Régis disait effectivement donner une limite au nombre de cas qui pourraient être traités en France. Ben, si j'essaie de les convertir, peut-être que tu me corrigeras si je me trompe, mais moi j'ai entendu les chiffres qui sont couramment répercutés. Il faut un centre en gros de protonthérapie pour 10 millions d'habitants et un centre de carbone thérapie pour 50 millions d'habitants. Ce qui voudrait dire que pour la France, il faudrait un centre de carbone et 5 centres de protons. Or, on s'aperçoit qu'effectivement, en France, on a effectivement ces deux centres de protons qui traitent un nombre limité de patients pour un certain nombre de pathologies relativement limitées, et que si on regarde au niveau européen, les Allemands, même s'ils reculent un peu, ont investi sur 4 centres de carbone thérapie. En Italie, à Okinawa, à Pavie, il y a un centre d'adron thérapie qui fait proton carbone. Il s'en construit un en Autriche. Je ne parle pas du Japon où ils en sont, je crois, à 5 ou 6 et qui prévoient dans les, jusqu'en 2015 d'en avoir 13. Et si vous voulez, pour encore prendre un argument de mon voisin, c'est que l'aspect effectivement expérience est important. Or, quand on voit, quand on suit un peu les développements qui sont faits actuellement au centre majeur allemand à Heidelberg, le HIT à Heidelberg, on s'aperçoit qu'effectivement ils traitent un certain nombre de pathologies bien identifiées selon des protocoles bien identifiés, mais qu'à côté, ils ont la capacité de faire des essais précliniques qu'ils ne pourraient pas faire s'il n'y avait pas de centre. Et ceci faisant, ils acquièrent une certaine expérience qui est difficilement remplaçable si vous envoyez, vous, vos patients en Allemagne. Donc, moi, je regrette un peu que sur l'aspect national, on n'est pas un peu plus, on est pris un certain nombre d'années de retard à l'utilisation de ces techniques.
Régis Ferrand, vous vouliez parler
un truc important, oui. Parce que Gérard a mentionné une chose que je voulais dire. Il y a deux points qui sont essentiels. Le premier, c'est le payer pour voir. C'est un peu comme le poker. On a une technique innovante. On se dit, tiens, ça pourrait être bien. Alors, on peut faire des simulations sur ordinateur. En réalité, quand on a un peu d'expérience, on peut faire dire n'importe quoi à l'ordinateur. Je peux vous simuler des tas de traitements qui vont montrer que A est supérieur à B ou l'inverse. Simplement, à un moment donné, on va se dire, bon, allez, il va falloir passer à l'expérimentation préclinique et ensuite aux essais thérapeutiques. Et le prix à payer, à un moment donné, pour dire, ben, je construis ensemble, ben, 50 millions d'euros. 100 millions, enfin, ou une nouvelle technique, mince, il faut. J'y vais pas. Est-ce que, enfin, ça, c'est une problématique assez délicate. Je voulais ensuite faire un parallèle par rapport à un truc, ensuite pour élargir par rapport à ce qui peut être le rayonnement ionisant, l'IRM. L'IRM, c'est quelque chose qui est un standard, qui est, enfin, autant pour les techniques, par exemple, de radiothérapie de pointe, c'est des techniques encore un peu, entre guillemets, confidentielles par rapport aux standards des traitements du cancer. Autant l'IRM, c'est même pas que pour le cancer d'ailleurs, c'est un truc standard. Il y a quelques années, la France était très largement en retard en Europe sur les équipements en IRM. Donc il y a beaucoup de progrès qui ont été faits, mais encore aujourd'hui, toutes les IRM de France sont absolument saturées. Et il y en aurait deux fois plus, je ne pense pas qu'elles seraient sous-occupées également. C'est quelque chose qui est standard, il y en a des centaines, c'est vendu, etc. Il n'empêche qu'aujourd'hui, il y a encore un déficit d'utilisation de quelque chose qui est considéré comme étant une modalité de référence directement issue de la physique nucléaire, puisque c'est de la résonance magnétique nucléaire, sur ces modalités-là, et qui ne coûte pas 50 millions. Une IRM de pointe, 1,5 million, voilà, ça coûte quelques centaines de mille, 1 million, enfin, voilà.
Une question un peu au-delà du médical. Vous êtes chercheur, vous trouvez donc, ou vous êtes susceptible de trouver, à qui appartiennent les brevets s'il y a des brevets, et deuxièmement, puisqu'il y a du matériel qui arrive ensuite, qui fabrique ces matériels?
Alors, pour ce qui concerne le CNRS, c'est très clair. Tout ce que la propriété intellectuelle, disons, de nos travaux, appartient au CNRS. On est payé par le CNRS, ça appartient au CNRS. Il peut y avoir, effectivement, dans le cas de brevet, une partie, je crois, c'est 25%, si je me souviens bien, maximum, qui peut revenir aux chercheurs. Ensuite, effectivement, alors c'est un des problèmes, c'est que ça s'appelle la valorisation, c'est qu'une fois que vous avez trouvé quelque chose, une molécule, un savoir-faire, une technique, bon, le CNRS va vous aider à le breveter, ça ne veut pas dire que c'est vendu. Donc le licensing, le fait de pouvoir exploiter ce brevet, après effectivement ça dépend d'un contact avec un partenaire industriel. Et là effectivement ça peut être un souci, c'est si on prend par exemple les grands majeurs en termes d'imagerie, eh bien, il n'y en a pas en France. Donc nous, en tant que personnel, enfin disons chercheurs, on essaye de s'appuyer, on essaye de prendre contact avec des industriels. Au niveau européen, il y a Siemens, il y a Philips. En France, il n'y a rien. Il n'y a pas disons, il y a Areva qui pointe un peu son nez actuellement, notamment sur l'ordonthérapie, mais il ne fait que être un tel de pont pour des sociétés japonaises comme Hitachi, par exemple. Mais il n'y a pas de grande majeure en termes d'imagerie, voire de IBA, c'est belge, par exemple, pour les cyclotrons. Siemens, c'est allemand. Hitachi, Mitsubishi, c'est japonais.
La santé.
Régis Ferrand.
La santé d'un point de vue. Sur la pharmacologie, par exemple, sur les médicaments, la France, je ne veux pas faire allusion forcément au laboratoire Servier, mais par exemple, quand on parle de Roche, Sanofi, Aventis, Pierre Fabre, ici, par exemple, oui, effectivement, il y a une industrie française. C'est une industrie qui, collecte la recherche qui peut être faite et qui également la suscite. C'est-à-dire qu'ils investissent également sur des laboratoires, etc. Sur la partie technologique, c'est le désert des Tartares. Il n'y a pas d'autre mot. Et ça, il y a eu quelques choix stratégiques au niveau des entreprises majeures, faits il y a quelques dizaines d'années. Je pense en particulier à la CG Hermès, à Thomson, etc., où des pans entiers de l'industrie ont été délibérément sacrifiés. Il faut voir ça. Et donc, si aujourd'hui, on fait des recherches dans certains domaines, et notamment les domaines technologiques, où il s'agit de fabriquer, de faire de l'instrumentation, eh bien, soit il faut monter une petite PME, faire une niche de marché et puis ensuite essayer de survivre en se disant que finalement le bout de la route c'est de se vendre à un gros au bout de quelques années, soit c'est directement aller voir le gros. Et alors si on veut être un peu, cocardier, ce sera dans une perspective européenne puisque la perspective nationale n'existe pas. Imagerie, comme il disait, Siemens, Philips, alors sinon c'est General Electric, enfin radiothérapie c'est Varian américain, Elekta qui est suédo-anglais, sinon c'est Toshiba, par exemple. Il y a absolument plus rien. Sinon, il y a quelques niches, comme par exemple Supersonic Imaging pour l'échographie. Et encore, en termes de taille de structure, c'est ridicule. Oui, c'est un vrai problème.
Le pays carcassonnais a choisi comme sujet, dans le cadre du bar des sciences, le cancer, les nouvelles approches pour le traitement. On parle de radiothérapie à l'instant, madame, monsieur. Quels sont les effets secondaires que l'on peut avoir sur la radiothérapie et sur l'IRM?
Bon, sur l'IRM, à part l'angoisse d'être enfermé, enfin claustrophobe et enfermé dans le tunnel, pour une IRM, il n'y a pas d'effet secondaire particulier. Après, pour la radiothérapie, c'est pareil. Les effets secondaires sont en fonction de la zone qu'on irradie. Sont en fonction de la dose qu'on délivre. Donc alors on va partir, il y a les effets cutanés, il y a l'asthénie, il y a les troubles digestifs, si on irradie un rectum, si on irradie une prostate, il y aura des troubles rectaux, des troubles urinaires, si on irradie un oesophage ou un poumon, on aura de la dysphagie, de la toux, si on irradie une zone ORL, on rentrera aussi dans des douleurs de la région oropharyngienne, une difficulté à avaler, d'une perte de salive. Voilà, mais je veux dire, c'est soit des troubles digestifs, soit des troubles respiratoires, soit de l'asthénie, soit des réactions cutanées, soit des troubles hématologiques. Bon, mais ça encore, c'est quand même pas assez moindre. Voilà à peu près les effets secondaires.
Des questions dans la salle, peut-être, apporter des réponses, ou ça fait un petit peu plus d'une heure que nous sommes en train de débattre sur le cancer et les nouvelles approches sur le traitement. Je crois, docteur Bétour, que vous pouvez peut-être nous parler un petit peu de l'association éventuellement ad hoc 11 et l'opération qui est en train de se mener aujourd'hui. Après 50 ans, il y a...
Donc ce que l'on a dit, enfin ce qui ressort un peu de cet exercice de ce soir, c'est que les cancers sont d'autant plus facilement accessibles aux thérapeutiques qui sont petits. Nous essayons, donc l'association ADOC 11, qui est une association, qui est une fausse association, puisque nous avons un financement État Assurance Maladie à part égale. Notre rôle, c'est de recevoir les fichiers des assurés sociaux et d'inviter tous les hommes et les femmes de 50 à 74 ans, inclus, à se faire dépister. Donc là, on est dans le cadre de Mars Bleu. Hein, c'est oui. Le mois du dépistage du cancer colorectal.
un cancer qui est
très fréquent.
Très fréquent.
Hein, c'est le troisième cancer en France, hein, qui touche 47 000 personnes. Il y a 47 à 48 000 nouveaux cas par an en France. Et ce qui est intéressant dans le concept du cancer colorectal, c'est qu'il n'y a pas de cancer colorectal s'il n'y a pas de polype. Donc, le but du jeu du dépistage du cancer colorectal, ça va être de trouver le polype. Donc, le test hémoculte que l'on va vous proposer de participer donc, va consister à recueillir vos selles pendant trois fois et de rechercher s'il y a du sang occulte, c'est-à-dire du sang qu'on ne voit pas, sur ces selles. Si on trouve du sang occulte, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un polype qui va saigner. Et dans ces cas-là, le but du jeu, ça sera de faire une coloscopie derrière et d'enlever le polype. Alors, on peut représenter un polype comme un champignon qui est à l'intérieur de l'intestin, donc avec une tête et un pied. Ce polype, donc dans un premier temps, il est tout à fait bénin et avec des irritations. Donc tout à l'heure, on parlait des toxiques, des goudrons. Donc là aussi, c'est pour ça que on parle des cuissons à haute température dans la genèse des cancers colorectaux. Ce polype va commencer à se cancériser sur la tête, sur le chapeau du champignon. Et à ce moment-là, il va se mettre à saignoter, et c'est là où on va le trouver lorsqu'on fait le dépistage. Si on ne fait rien, ces cellules cancéreuses vont commencer à envahir le pied du champignon et à se diffuser au niveau de la muqueuse environnante. Et là, on est vraiment dans le stade de cancer. Lorsqu'on intervient au stade de polype, ce qu'on appelle polype avancé, c'est-à-dire un polype déjà cancéreux, juste la tête contaminée, le gastro-entérologue qui va faire la coloscopie va voir ça. Avec son fibroscope, il va couper le pied du polype et il va l'enlever. C'est à ce stade vraiment où on peut parler de traitement préventif des cancers. Si on enlève le polype, il n'y aura pas de cancer. Et donc ça, je crois que c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant par rapport, par exemple, à la mammographie, où la mammographie, on va trouver un cancer qui va être plus petit que s'il était palpé, mais on va trouver quand même un cancer. Donc il y aura un traitement de cancer derrière. Alors que dans le dépistage du cancer colorectal, on va trouver beaucoup de polypes avancés. Pour vous donner un ordre d'idée, sur 700 coloscopies réalisées, on a trouvé 150 polypes avancés. Donc, c'est quand même quelque chose d'important. Et voilà. Le problème qu'il y a, c'est qu'on a trouvé 150 polypes avancés sur 22% de participation. Ça veut dire qu'une personne sur 5 dans l'Aude a fait son test de dépistage entre 50 et 74 ans. Donc c'est pas mal parce que il y a 20 000 personnes sur 2 ans qui ont fait leur test, mais ça veut dire que si on parle pour 22% de participation de 150 polypes qu'on a enlevés, ça veut dire qu'il y a 600 polypes avancés qui se baladent dans la nature et qui pourront devenir potentiellement des cancers dans les 3 à 5 ans qui viennent.
Docteur Péto, est-ce qu'on peut dire que, peut-être qu'il y a des questions, mais est-ce qu'on peut dire que c'est héréditaire et quels sont les premiers symptômes que l'on peut avoir?
Lorsqu'on fait le dépistage organisé d'un cancer, on s'occupe de personnes qui sont asymptomatiques, c'est-à-dire qui n'ont aucun symptôme, qui n'ont pas mal, rien. Si la personne a des symptômes qui commencent à apparaître digestifs, si on était constipé, on a de la diarrhée, si on avait plutôt de la diarrhée, dont on devient constipé, tout ça, c'est un changement, et dans ces cas-là, c'est pas le dépistage organisé. Le dépistage organisé s'adresse à des personnes tout venant, qui n'ont aucun symptôme et qui n'ont pas d'antécédents familiaux de cancer. Lorsqu'on a des antécédents familiaux de cancer colorectal, tout ça, le dépistage consiste à une coloscopie et un suivi personnalisé. Si on n'a rien, on fait le test hémoculte. À partir de 50 à 74 ans, plus on s'éloigne de la jeunesse, plus le risque de cancer génétique, d'origine du génétique, avec ce qu'on a dit, des capacités de réparation sûrement, qui sont plus faibles que les autres, diminuent. Quelqu'un quelqu'un qui fait un cancer digestif à 75 ans ou à 80 ans, il n'y a sûrement aucune cause génétique dedans, parce que s'il y avait vraiment une fragilité génétique, ça serait manifesté à 20-30 ans. Hein. Donc c'est pour ça qu'il est important de passer par votre médecin généraliste. Vous allez recevoir la notification par Adocons et votre médecin généraliste va vous dire, vous faites le dépistage organisé ou vous ne faites pas le dépistage organisé, parce que dans votre vie, dans vos antécédents familiaux, il y a sûrement une autre prise en charge qui est importante à faire, et qui est la scoloscopie régulière.
Vous voulez peut-être ajouter quelque chose, madame, monsieur? Non, je crois que...
C'est un dépistage, oui, qui est gratuit aussi.
Oui. Hein,
et donc, ce qui est important de savoir, donc, c'est on va chercher un polype qui va saigner. Donc, la première fois, le polype ne va pas se mettre forcément à saigner, mais donc, il est important de répéter le test 2 ans après, 4 ans après, etc. Le passage d'un polype à cancer n'est pas obligatoire. Hein. Mais on sait que s'il doit se faire, il va se faire entre 10 et 15 ans. Donc on a le temps. Hein. Si aujourd'hui vous avez un petit polype qui débute, on ne le verra peut-être pas, mais dans 2 ans il saignera peut-être, dans 4 ans il saignera peut-être. Et en répétant ça régulièrement, on va maximiser la probabilité de trouver un polype qui saigne.
Moi, je regretterais juste une chose, peut-être que si on se termine ce débat, vous avez peut-être des questions, vous voulez dire des choses, et puis vous n'osez pas, il reste encore quelques petites minutes. Non, peut-être si, voilà.
On a parlé de gens qui travaillent ensemble, donc chimistes, physiciens, on a parlé aussi de la notion d'humain, de l'humain. C'est vrai que dans le cancer, il y a l'humain, celui qui souffre d'un cancer, malgré les mars bleus, malgré plein de choses, je crois qu'aussi on devrait travailler sur le fait que c'est une maladie, voilà, point barre. On dit volontiers qu'on a une grippe, quelqu'un qui a un cancer, il va se cacher, il va pas le dire. Donc là, il y a un gros, gros travail sur l'humain à faire. Et le jour où les gens n'auront plus peur du voisin qu'à un cancer, parce qu'on ne sait jamais, ça peut être contagieux, on l'entend dans des provinces, des campagnes très reculées, on l'entend encore aujourd'hui, il y a vraiment un gros, gros travail de l'humain à faire. Et après, pour une petite note positive, peut-être, donc vous avez tous beaucoup travaillé et permis de soigner beaucoup de tumeurs, et ce qui fait encore énormément peur aux gens, c'est le côté métastase, qui semble ingérable, et la personne se dit mince, ça va partir partout au secours. Il semblerait pourtant qu'il y ait eu de belles avancées où justement par diverses techniques vous arriveriez à les canaliser, les rassembler, les mettre en sommeil, peut-être pas les détruire encore, mais tout du moins à les calmer dans un coin quelque part. Non, je ne sais pas, j'ai entendu parler de choses comme ça. Peut-être vous pouvez en dire quelque chose.
Non, mais je crois que voilà, j'en reviens au fait qu'il n'y a pas un cancer qui a des cancers. Il y a des cancers qui ne sont pas métastatiques. Il y a des cancers qui ne sont pas métastatiques parce qu'ils ne donnent pas de métastases. Il y en a d'autres qui n'en donneront pas parce qu'ils sont pris à un stade précoce. Il y a certains qui donneront des métastases. Alors ça peut être des métastases viscérales, ça peut être des métastases ganglionnaires. Effectivement, on a des traitements. Suivant la localisation, suivant le nombre, ça pourrait être la radiothérapie, ça pourrait être la chimiothérapie, ça peut être l'hormonothérapie, ça peut être des anticorps monoclonaux, ça peut être ce qu'on appelle les l'anti-angiogénèse, c'est-à-dire des médicaments qui vont détruire les vaisseaux qui nourrissent la tumeur, et la tumeur, ben, elle n'est pas nourrie. Je ne vais pas dire qu'elle se suicide, mais elle se nécrose elle-même. Donc voilà, je crois que le cancer, c'est une maladie chronique, comme d'autres maladies chroniques. Alors il y en a certaines qui ont un pronostic moins bon que d'autres, comme certaines pathologies cardiovasculaires ont un pronostic qui n'est pas bon, comme certains diabètes ont un pronostic qui n'est pas bon, comme certaines insuffisances rénales ont un pronostic qui n'est pas bon. Donc je crois qu'il faut sortir, j'allais dire de cet imaginaire, c'est pas le bon mot, mais de cette crainte absolue. Faisons du dépistage,
faisons de la prévention, parce que soyons clairs, les grands progrès, maintenant, ça ne va pas être par les progrès techniques. Hein. Les progrès techniques, ils vont jouer à la marge. Le meilleur moyen de diminuer les maladies, de diminuer le risque de maladie, c'est la prévention, c'est le dépistage. Donc c'est par là qu'on gagnera. Hein. Et puis après, voilà, n'ayons pas peur. Hein. Parce qu'on a peur de... Enfin, je suis désolée, on a peur de mourir d'un cancer et on n'a pas peur de mourir d'un infarctus. Non mais, attendez, on n'a pas peur de mourir d'un AVC. On n'a pas peur de mourir d'un accident de la circulation. Donc sortons aussi de ça. Je veux dire, il y a une image aussi quand même du cancer. Hein? Il y a 60 ans en arrière, quand Marie Curie commençait, il y a 20 ans en arrière, et puis il y a maintenant, et puis il y a l'avenir. Moi, je ne sais pas. Les gens n'ont pas peur des maladies cardiovasculaires. Mais moi, j'en ai hyper peur. Voilà.
Et justement, docteur Martinez, vous dites qu'il y a l'avenir. Et je pose la question à vous, messieurs et à madame. Qu'est-ce qu'on attend pour l'avenir, pour justement le cancer? Quel est l'espoir qu'on attend et pour quand?
Je crois que c'est ce que je viens de dire, c'est la prévention, c'est le dépistage et les évolutions techniques. Les évolutions techniques...
Les chercheurs aussi.
Mais bien sûr, et dans toutes les pathologies, parce que je crois que ce qu'il faut voir, c'est que quand on travaille sur la cellule ou la destruction de la cellule, on travaille aussi pour d'autres pathologies.
Tout à fait.
Oui, il y a deux choses. Je vais être un peu... Je voudrais terminer par un élément de réflexion.
Oui.
La première chose qu'on peut espérer, j'allais dire pour le... c'est d'abord, enfin, pour la partie thérapeutique, par exemple, le diagnostic, on ne peut qu'espérer qu'il y ait de plus en plus de translationnel entre ce qui se fait dans certaines disciplines. Aujourd'hui, on voit qu'un traitement, et tout particulièrement pour le traitement du cancer, mais pas que, c'est des traitements qui sont vraiment pluridisciplinaires. Et ce, avant, c'était peut-être un peu un mot un peu, à la mode, qui fait bien. Aujourd'hui, c'est une vraie réalité. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a eu des personnes qui ont franchi leur domaine pour aller voir ce qui se passe à côté, il y a une vraie plus-value. Si on regarde l'histoire du scanner et de l'IRM, par exemple, c'est la manière dont c'est arrivé ensuite aux applications médicales, c'est un chemin un peu tortueux, et à un moment donné, ça a fait vraiment sauter un vrai verrou. Ça a vraiment amené une plus-value considérable, c'est-à-dire que d'avoir une imagerie interne tridimensionnelle du patient, ça a été une vraie révolution. Ça, c'est, effectivement, c'est le verrou à sauter à un moment donné, et je crois qu'on ne peut qu'espérer qu'il y ait d'autres verrous qui sautent. Mais après, je voudrais terminer sur une réflexion un peu qu'on peut avoir quelquefois, c'est on améliore les techniques, on améliore le diagnostic, on améliore le traitement. Et donc, que se passe-t-il? Les gens vivent de plus en plus vieux. Et donc, ils vont avoir des nouvelles maladies. Quand on parle, par exemple, le cancer de la prostate, les cellules un peu cancéreuses latentes ou pas à 90-95 ans, si l'espérance de vie était à 50 ans, on n'en voyait pas beaucoup. Maintenant, on en voit beaucoup. Quand on dit, j'ai pensé pour mes enfants, toutes les femmes nées en 2025, je ne sais plus, elles ont une chance sur deux d'être centenaires. Mais qu'est-ce qu'elles auront? Enfin, et donc, à un moment donné, il y a une réflexion un peu sur, mais au fond, où allons-nous? Et deuxièmement, est-ce que c'est une course contre la montre ou pas? Moi, la petite réflexion un peu personnelle que je peux me faire, c'est il y a souvent, par rapport à ces techniques complexes et de plus en plus, une espèce de tentation, pas de toute puissance, mais une espèce de rapport en disant avec beaucoup d'argent, avec des développements techniques extraordinaires, c'est un peu le deus ex machina, c'est-à-dire on se sent tout puissant en disant il suffit d'investir plus, on va faire des trucs. Et je crois que le truc est important, et notamment dans des traitements complexes et notamment douloureux avec un certain tabou contre le cancer, c'est de ne pas oublier l'humain. C'est-à-dire qu'au fond, moi je me suis beaucoup posé ces questions par rapport à des traitements de l'enfant. Il y a des traitements de l'enfant, on traite des enfants, je pense notamment aux rétinoblastomes, ils naissent avec leur cancer. Alors on a, la première chose qui est choquante, c'est une notion d'injustice. On se dit, pourquoi eux? Enfin, c'est injuste, enfin, c'est insupportable. Pourquoi eux? Qu'est-ce que je peux faire? Et puis des fois, on n'arrive pas à les sauver. On se dit, mais on peut avoir une certaine... Il y a un travail, une certaine culpabilisation, mais je n'ai pas pu le sauver, ou des choses comme ça. Et au fond, on se dit, c'est là qu'il faut renoncer à cette espèce de sentiment, notamment qui est très propre à la technologie, à la science, où 1 plus 1 égale 2, et en se disant, au fond... Quand bien même il y a un progrès technologique, quand bien même il y a beaucoup d'investissements, quand bien même il y a beaucoup d'argent en jeu, ce n'est jamais qu'un accompagnement humain. C'est-à-dire on accompagne quelqu'un, on l'aide à cheminer, voilà, si on peut l'accompagner, etc. Enfin, on n'est pas maître de la vie d'autrui. Enfin, c'est un point fondamental. Je crois que c'est une limite qu'il faut avoir par rapport à ces progrès technologiques.
Oui, alors peut-être que vous vouliez aussi dire quelque chose, des mots d'espoir, quoi.
Oui, ben, bon, moi effectivement, avec de par mon vécu, ma formation, j'ai effectivement un espoir sur les aspects un peu plus technologiques. Alors c'est vrai que je suis d'accord que ce n'est pas uniquement le fruit d'une augmentation de moyens. Je pense que moi c'est plutôt, encore une fois, je mets beaucoup confiance entre le dialogue entre différentes communautés qui vont aborder ce problème du traitement du cancer. Et je crois que c'est par ce dialogue que l'on pourra améliorer un certain nombre de techniques, ou au moins améliorer les traitements. L'aspect diagnostic rejaillit aussi, bon, il n'y a pas que le traitement du cancer, enfin le diagnostic du cancer, on parle beaucoup de maladies neurodégénératives actuellement, comme l'Alzheimer, tout ça, et c'est vrai que aussi dans ce cas-là, il peut y avoir des améliorations des traitements du ou de la technique. Donc, pour résumer, je pense qu'il y a encore des choses à faire au niveau technique. Ce n'est pas uniquement une question de moyens, c'est une question d'équipe qui soit capable d'aborder les problèmes et de les traiter de la meilleure manière. Et donc je pense que ça, ce chemin, ce cheminement, eh ben, il est dans la nature humaine. Donc mon espoir, c'est qu'il y aura toujours des améliorations et des progrès. Alors c'est peut-être effectivement une course contre la montre, parce que les gens vieillissent et développent de nouveaux types de maladies, et on est confronté donc avec ces nouvelles maladies, mais le cheminement qui nous fait aborder la guérison diagnostique, il existe, et il est inné, enfin je veux dire, il est interne à l'espèce humaine, à notre façon d'aborder les choses. Donc c'est là que je vois de moi de l'espoir.
Merci Gérard Montaroux. Peut-être que le docteur va nous dire le mot d'espoir aussi.
Oui, moi je pense que effectivement, comme a dit le docteur Martinez, on parle beaucoup de décès par cancer, mais il y a autant de décès par maladie cardiovasculaire, ça, oui. On n'en parle pas. Ça touche des sujets à la limite plus jeunes,
oui.
Hein, et ça on n'évoque pas le sujet, donc je crois que il y a ça. Pour moi, je crois que les progrès qui peuvent venir, effectivement, donc il y a des progrès sur la compréhension de la genèse des cancers, pourquoi quelqu'un va avoir des mécanismes de réparation qui sont faibles, et peut-être savoir comment détecter ces gens qui ont des mécanismes de réparation faibles et comment peut-être améliorer ces mécanismes de réparation, hein, ce qu'on appelle la médecine prédictive, hein, et qui va se mettre en place dans les 10-20 prochaines années. Voilà, et moi je pense que et c'est mon travail, c'est d'essayer de trouver les tumeurs les plus petites possibles, hein, pour se dire que pour que mes confrères puissent être le plus efficaces possible, parce que il y a ça, on a un arsenal thérapeutique qui est en train de progresser, hein, on vous a parlé des protons, on vous a parlé d'autres techniques qui sont de plus en plus ciblées, de nouvelles chimiothérapies qui viennent, etc. Et donc il est évident que lorsqu'on intervient sur une tumeur de petite taille, eh ben, cet arsenal thérapeutique sera 20 ou 30 fois ou 50 fois plus efficace que sur une tumeur de taille plus importante. Donc pour moi, comme disait un peu le docteur Martinez, ce qui est important, ben, c'est le dépistage, parce que c'est un acte qui est relativement facile à faire. C'est comme les vaccinations, hein, c'est des choses qui sont faciles à faire. Et c'est dommage de se priver de ça. C'est à l'heure actuelle, c'est pas normal de mourir au jour d'aujourd'hui de tétanos.
Docteur Pétour, c'est vrai que les progrès font que à Carcassonne, dans le Kentucky, on nous écoute, mais aussi les Carcassonnais ici nous écoutent, et peut-être qu'ils auraient envie d'avoir un petit peu plus d'informations concernant ADOC 11. Alors peut-être dire où ça se trouve ici à Carcassonne.
Donc ADOC 11, c'est 38 route Minervoise, donc c'est à côté d'ici, hein, du bistrot des Augustins. Donc notre numéro de téléphone, c'est le 04 68 72 72 00. Donc normalement, tous les deux ans, vous devez être invité si vous avez entre 50 et 74 ans. Si vous n'êtes pas invité, ça veut dire qu'il y a un problème de transmission entre les fichiers des caisses et nous. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour que on vous envoie une invitation et pour que vous participiez au dépistage.
Merci de cette précision. Docteur Martinez, le mot d'espoir aussi.
Moi, j'ai toujours été dans l'espoir, je n'ai jamais été dans le désespoir. Je crois que ça fait maintenant 32 ans que je m'occupe de cancérologie. Moi, je suis désolée, j'ai toujours vécu, certes, c'est un combat,
mais
c'est un combat positif, où je trouve qu'on gagne souvent. Alors, il y a la recherche, il y a les évolutions techniques, il y a le dépistage, il y a la prévention, il y a les traitements, et puis il y a quelque chose aussi qui est important, c'est s'occuper des gens, c'est les accompagner. Et je crois que le premier élément, si on est pessimiste avec un patient, le patient il sera pessimiste. Si on est optimiste avec lui, et si on l'accompagne, et si on le stimule, et si on l'écoute, mais peut-être que ça ira mieux. Et moi je me rappelle une journée, c'était en 92, c'était les premiers états généraux à Paris de la cancérologie, du cancer. C'était organisé par la Ligue. Et je peux vous dire que ce jour-là, il y avait essentiellement des femmes. Elles nous ont hyper boostées, elles nous ont hyper stimulées. Et là j'ai compris que l'humain était plus important. Enfin, plus important, mais nécessaire.
Merci beaucoup. Voilà, je crois que c'était pas ça. Important de pouvoir le dire, effectivement. Alors, merci d'avoir participé à ce débat, mesdames, messieurs. J'espère que vous ne partez pas avec le regret de ne pas avoir pris le micro pour vous exprimer. Si, un petit peu, peut-être, madame ? Non, pas du tout. Très bien. Et puis, remercier nos invités aussi qui sont venus animer ce débat. Je voudrais aussi saluer le travail de Pays Carcassonnet avec son président Jean-Claude Pérez, et puis peut-être aussi remercier Arlette et Valérie. Et puis je vais laisser, on peut les applaudir parce que c'est du travail, hein. Là, oui. Merci Arlette, merci Valérie. Je voudrais juste peut-être vous rappeler que vous avez la possibilité de trouver pas mal de livres jusqu'au 29 mars à la librairie Bréteau sur le cancer. Il y a un espace qui est réservé pour tous ces livres. Et puis je vais laisser le mot de la fin au co-organisateur. Voilà, j'ai toujours du mal avec ce mot-là, j'ai toujours du mal avec ça. Alain Falbar, je voudrais juste vous remercier, mais vous auditeurs qui êtes de l'autre côté de votre radio, j'espère que vous avez aussi, tout comme nous, pris plaisir à entendre nos invités, et puis le public est là. Merci beaucoup et à très bientôt.
Oui, j'ai très peu de choses à dire, beaucoup de choses ont été dites. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est ce dialogue entre les médecins et... Bon, ce sont des physiciens. On pourrait avoir des biologistes, on pourrait avoir des chimistes et d'autres. Bon, il se trouve que je suis physicien et j'ai plus d'affinité à trouver des physiciens pour les barres des sciences. Mais c'était vraiment extrêmement intéressant. Voilà, je crois que une fois de plus, le bar des sciences a joué son rôle. Il a permis d'aborder toutes les questions.